Voilà. Bien, eh bien, je vous remercie tous d'être présents ici, malgré la neige et le verglas qui auraient pu vous arrêter. Nous avons une soirée en plusieurs parties. Je vais, moi, vous faire une petite introduction, donc un petit peu de ce que nous sommes, de ce que nous voulons faire. J'ai d'abord un petit préalable. Un, c'est ne pas bouger les chaises qui sont devant les portes pour que les gens comprennent que ces portes-là, il ne faut pas les utiliser. Hein ? C'était la recommandation des gestionnaires du centre de congrès. Deux, c'est bientôt la Saint-Valentin. Alors, si vous voulez, il y a des cartes postales de la Saint-Valentin qui sont sur les tables là-bas. Vous pouvez les prendre et les envoyer aux gens à qui vous voulez leur dire ben, voyager avec le train. Voilà. Vous avez aussi des prospectus sur la table là-bas au fond. Et puis, vous avez une annonce. Le samedi 27, il y aura une soirée, et un repas bio, une soirée folk, organisée par l'association Aman Iman, qui veut dire l'eau c'est la vie en Touareg, en Tamachek, hein, et l'école Montessori de Drumet. Donc, il y a quelqu'un dans la salle là, qui a des billets à vendre.
Oui, moi j'ai des billets.
Voilà, Christian. Donc, si vous en voulez, vous êtes invité et puis vous pouvez prendre ces billets. Voilà. Ensuite, je veux remercier les gens qui m'ont aidé à préparer cette soirée. C'était un travail important. Je veux vous remercier d'être présents ici. Soit nos amis supporters, hein, les gens qui sont venus pour nous encourager en se disant si la salle est vide, ils seront tristes. Ceux qui sont venus simplement pour s'informer, c'est très important si on arrive à vous montrer que nos propositions, notre réflexion est intéressante. Et puis les contradicteurs éventuels qui, eux, sont encore plus bienvenus parce qu'ils nous aident à aller plus loin, à mieux comprendre les difficultés de faire passer notre message, les difficultés des gens à nous entendre. Donc n'hésitez pas tout à l'heure. Donc j'ai demandé à nos intervenants d'être assez courts, hein, dizaines de minutes chacun, pour que l'on ait un temps important pour les questions. J'y reviendrai, donc les intervenants, je reviendrai sur qui ils sont. J'ai à ma droite Yves Pacalet, ensuite Jacqueline Collard, Robert Rigaud et Vincent Compara. Vous les avez vus sur les affiches. Je reviendrai sur la présentation. Je voudrais vous expliquer un petit instant ce qu'est Europe Écologie. Hein, ce n'est pas un parti politique, bien qu'il présente des listes politiques pour les élections. C'est un rassemblement hein, qui associe des personnalités de la société civile, des personnalités associatives et les militants verts. Donc on a un mixage de listes qu'on appelle le système de la fermeture éclair, c'est-à-dire un homme, une femme, un homme, une femme, autant que faire se peut, et un vert, un non-vert, ou un non-vert, un vert, de façon à faire que le maximum de gens puissent représenter la société dans laquelle nous sommes. Et puis, il y a aussi des militants du mouvement Région et Peuple Solidaire qui font un gros travail là-dessus. Donc, ici, on a une petite particularité sur Aix-les-Bains, c'est qu'on s'est structuré en association loi 1901 pour pouvoir fonctionner de manière un peu différente. Je voudrais vous citer ici quelque chose qui est tiré d'un ouvrage qui est paru récemment, qui s'appelle « Europe Écologie, miracle ou mirage », qui montre que la question de l'eau, ce n'est pas une question nouvelle, puisque dans cet ouvrage, on raconte qu'en 2009, Daniel Mitterrand et Cécile Duflot s'étaient longuement entretenus de cette question de l'eau. Je vous cite un passage ou deux. Et l'auteur dit « On pourrait imaginer qu'elles échangent des propos légers. Pourtant, sous leur dehors souriant et décontracté, les deux femmes n'ont pas l'habitude de raconter des banalités. Elles ne jouent pas non plus à refaire le monde. Elles le changent réellement. Certaines multinationales seraient prêtes à payer très cher pour entendre les détails de leur entretien autour d'une omelette et d'une salade. Détails qui dépassent l'imagination ordinaire. Elles s'entendent parfaitement et s'accordent sur un plan d'action pour contrer les quelques multinationales qui monopolisent le marché de la gestion de l'eau et des déchets. Pour Daniel Mitterrand et sa fondation, l'urgence est de défendre le droit de tous les habitants de la planète de pouvoir accéder à une eau potable et gratuite, au moins pour assurer leur survie. Aujourd'hui, 1,5 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 34 000 personnes en meurent chaque jour, rappelle la dame de 84 ans qui en a fait son combat quotidien. Donc je ne vais pas continuer, il y a d'autres choses très intéressantes. C'est une lecture très intéressante que je vous suggère. Pour cette soirée maintenant, ayez en tête la chose suivante. Nous allons simplement ouvrir des fenêtres, car chaque sujet que l'on va aborder avec chaque intervenant pourrait être l'objet d'une soirée entière, peut-être même plus. Mais ce n'est que partie remise. Si vous souhaitez que l'on aille plus loin, nous pourrons organiser d'autres soirées de travail dans le cadre de nos commissions, afin d'aller au-delà d'une simple campagne électorale. Je mettrai là-bas sur la table un petit registre sur lequel vous pouvez vous inscrire si vous voulez travailler sur une question et vous indiquer quelle question vous intéresse. Si on a vos coordonnées, on pourra vous inviter. Enfin, nous nous sommes entourés de spécialistes, car l'eau est un domaine complexe et d'autres ont su mieux que nous l'explorer, étudier cette question. Je pense par exemple aux services techniques des collectivités locales, au Conservatoire du patrimoine naturel, au service du Conseil général, aux associations de protection de la nature. Tous ces gens-là sont certainement beaucoup plus compétents que moi. Mais la manière dont on peut fonctionner, c'est de s'entourer de ces compétences, de façon à pouvoir mieux comprendre les choses. Je terminerai, ou presque, en vous disant que nous aurions aimé vous parler plus longuement de quelques sujets. Mais les personnes susceptibles de nous éclairer ont préféré ne pas intervenir dans le cadre d'une campagne électorale. J'en citerai quatre. On aurait pu parler ainsi de l'incidence de l'ouverture d'une usine de vente de l'eau d'Aix en bouteilles plastiques, sur la quantité de plastique ainsi apportée dans notre environnement savoyard. Ainsi, on relève dans l'enquête d'utilité publique, le point de vue d'un de nos amis qui nous fait remarquer que l'autorisation d'agrandir l'usine d'embouteillage accordée à la SEAB pour cette opération porte à 20 tonnes journalières la capacité de production de plastique POT accordée à cette société. Ainsi, en 40 jours seulement, seront anéantis les résultats obtenus pour toute une année et pour toute la Savoie par l'opération suppression des sacs de caisse dans les grandes surfaces, réussi en 2005 grâce à l'action coordonnée du Conseil général et de plusieurs associations, ainsi qu'à l'adhésion de l'ensemble des Savoyards. C'était 780 tonnes de déchets plastiques économisés par an. Vous voyez, donc il y a des petites remarques comme ça qui sont intéressantes. On aurait pu passer du temps là-dessus. On aurait pu parler aussi des retenues d'eau collinaires dans les stations de ski. Vous savez, c'est ces grands lacs artificiels, où il y a eu un communiqué de l'Union fédérale des consommateurs que choisir de Rhône-Alpes qui faisait remarquer que le tarif dégressif dont bénéficient les stations pour grande consommation fait que le coût du litre d'eau est moins élevé pour faire de la neige artificielle que pour faire sa cuisine ou sa toilette, ce qui peut surprendre et va à l'encontre des mesures incitatives à l'économie d'eau. Il y a d'autres choses qui apparaissent dans ce communiqué qui sont intéressantes. Enfin, une des choses que j'aurais aimé qu'on vous présente, c'était la manière dont l'eau est devenue un enjeu terrible dans les conflits internationaux, par exemple entre Israël et la Palestine et dans d'autres pays. On a une association qui s'appelle Hydrauliques sans frontières, dont on a le président de notre région, qui fait un très gros travail là-dessus. Ça aurait été intéressant. J'aurais aimé enfin qu'on nous parle aussi des pollutions de l'eau par les médicaments et autres substances chimiques difficiles à détecter. Et j'espère que ce sera un point fort de nos actions futures. Donc, gardons bien en tête que l'eau, c'est la vie. Nous sommes heureux donc d'accueillir, de présenter nos conférenciers. Je vous propose, au fur et à mesure, on fera le débat à la fin, de noter vos questions pour ne pas les oublier. Je vais donc maintenant présenter notre première intervenante c'est Jacqueline Collard, qui est ici, là, à ma droite. Si je retrouve mon papier, je saurai ce que je veux vous dire sur elle. Donc, Jacqueline a été très active dans le domaine associatif sur ces thèmes environnementaux que sont l'eau, l'air et les liens avec les problèmes de santé qui peuvent y être associés. Elle va essayer de nous montrer comment le combat pour l'eau, c'est idéologiquement notre combat pour tous, pour un accès à l'eau de bonne qualité. Et la manière de concilier les usages et de considérer l'usage de l'eau potable comme prioritaire, hein, avec ce, pour l'alimentation. Elle nous parlera aussi des institutions telles que le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Voilà, je donne la parole à Jacqueline, hein, qui a 10 minutes à peu près pour vous brosser quelques points d'orientation, de réflexion qu'on pourrait avoir.
Bon, eh bien, merci. Et bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux. On va essayer effectivement assez rapidement de vous brosser un petit état des lieux de la problématique de l'eau qui effectivement est l'outil indispensable à la vie. Par conséquent, c'est quelque chose qu'on recherche en priorité et pour lequel les enjeux interplanétaires, planétaires plus exactement, sont énormes puisqu'effectivement c'est un enjeu colossal dont Danielle Mitterrand effectivement est une grande... dame qui a su parcourir le monde pour pouvoir défendre les gens qui avaient besoin d'eau pour vivre et non pas d'eau simplement pour des process industriels et pour des grandes multinationales qui essayaient de s'accaparer au détriment des gens qui n'avaient pas les moyens de l'acheter. Donc effectivement, on peut tirer notre chapeau à cette dame qui a su et qui continue ce combat très loyal, sachant qu'on a 90% quand même des fleuves de la planète qui sont pollués. Et que même en France, on a un tiers des nappes phréatiques, des nappes souterraines, qui sont polluées par les pesticides. Donc nous sommes dans des situations où il est grand temps de prendre des décisions dures, draconiennes, si on ne veut pas que nos enfants, nos petits-enfants, aient des déboires colossaux, parce que la santé en sera affectée dans la mesure où vous savez très bien qu'un produit qu'on disperse sous la forme de poudre ou de liquide, eh bien, met très longtemps à rester dans le sol et qu'il n'y en a qu'un dixième qui est utilisé par la plante. Tout le reste part essentiellement d'ailleurs sous forme de polluants aériens et se retrouve dans les airs atmosphériques des villes. Donc l'utilité des pesticides est très limitée vis-à-vis des tonnages impressionnants qui sont utilisés. Mais on va surtout d'abord parler des différents usages de l'eau. Alors l'usage de l'eau, il y a un usage qui est évident, c'est l'eau potable, mais il y en a bien d'autres. Hein. Il y a l'eau qui est utilisée pour la nourriture, pour les usages agricoles, et c'est souvent ces usages agricoles qui sont l'origine de grosses formes de pollution. Mais on a aussi l'eau des process industriels, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas vivre sans une économie qui puisse donner du travail à tout le monde. Encore faut-il que cette économie soit compatible avec une qualité d'environnement qui reste acceptable, non seulement pour les travailleurs, mais pour les riverains. Il faut penser à tous les usages de l'eau. Par exemple, on a une eau qui est relativement peu polluante et qui est utilisée dans un process industriel, c'est tout simplement l'eau hydraulique qui nous donne une capacité d'énergie. Hein. Mais néanmoins, on sait très bien que la création de barrages n'est pas sans risque pour l'environnement et que là aussi, on ne peut pas en faire n'importe où, dans n'importe quelles conditions, même si on est obligé, dans le contexte dans lequel on vit, et on le voit bien tous les jours, on a un besoin d'énergie assez important. Faut-il encore savoir la maîtriser et savoir l'économiser pour ne pas avoir à faire d'autres infrastructures qui pourraient être préjudiciables. Et pour terminer, l'eau de loisir, qui est à la fois l'eau pour les pêcheurs, l'eau pour les baigneurs, mais aussi l'eau qui est utilisée pour la neige de culture. Dans nos régions montagnardes, vous savez très bien que la neige de culture consomme des grandes quantités d'eau, mais et donc nécessite des infrastructures en montagne qu'on appelle des retenues collinaires qui effectivement permettent à des réservoirs d'eau d'alimenter ces canaux à neige, Ce n'est pas sans risque pour le climat, puisque ça conditionne des microclimats locaux qui transforment les écosystèmes locaux, et par conséquent, on ne peut pas en faire n'importe où, dans n'importe quelles conditions. Et justement, là, à l'heure actuelle, il y a des réglementations qui sont en train de se mettre en place pour essayer de limiter ces infrastructures qui néanmoins sont fort demandées par les stations, puisque effectivement, dans la mesure où on a un réchauffement climatique, même si aujourd'hui il n'est pas vraiment significatif, eh bien, de nombreuses années antérieures, nous avons vu un manque de neige, et le fait de pouvoir revenir dans les stations, les skis au pied, est l'essentiel des directeurs de station. Et à ce titre-là, on est capable de faire des retenues qui ne vont être utilisées que quelques jours par an, hein, mais qui vont notablement échanger le climat, échanger les conditions de transfert d'eau d'un versant à l'autre. Alors, hormis donc ces aspects des différentes eaux, il faut savoir que l'eau, c'est quelque chose effectivement de très fragile et que par conséquent, on doit la protéger. Et il y a des organismes qui ont été mis en place depuis longtemps, c'était les agences de bassin. La France est décomposée en 5 agences de bassin. Nous dépendons de l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, qui réglemente les usages de l'eau et qui aide les collectivités territoriales à faire à la fois de l'adduction d'eau et de l'assainissement dans des conditions acceptables. Et vous avez sur vos factures d'eau individuelles une quote-part qui est versée à cette agence de bassin qui a comme cette mission-là. Alors, localement, on a aussi d'autres réglementations qu'il faut envisager, qu'il faut dont il faut connaître l'existence. C'est en particulier ce qu'on appelle la DCE, c'est-à-dire la Directive cadre sur l'eau, qui date de 2000 et qui a vu une application réelle à partir de 2005, puisqu'il faut bien se rendre compte qu'en France, on est toujours très loin des directives européennes et qu'on met un temps certain à les mettre en application. Et ces décrets de 2005 mettaient en application en particulier les SDAJ, qui sont les schémas d'aménagement de gestion des eaux, qui sont des outils de planification et qui vont permettre justement de pouvoir définir d'où vient l'eau, quels en sont les usages, et de faire une répartition de ces ressources en eau suivant les usages qui sont nécessaires dans un lieu ou dans un autre. Et donc, c'est seulement un arrêté de 2006 qui a vraiment mis en application cette directive. Donc, rappelez-vous, directive cadre 2000-2006 pour qu'elle soit mise en application. C'est la France dans toute sa splendeur. Et je lis deux choses qui sont importantes. C'est de donner des outils à l'administration et aux collectivités territoriales et aux acteurs de l'eau. Collectivités territoriales, c'est à la fois les communautés de communes, à la fois les départements et à la fois la région. Et vous voyez qu'en tant qu'élection régionale, on a notre mot à dire aussi dans les agences de bassin et dans les applications de cette loi sur l'eau. Par conséquent, il faut se rendre compte que votre vote a une importance aussi sur les choix qui vont être faits dans les destinations des différents usages de l'eau comme d'autres types d'énergie. Et donc, alors après, qu'est-ce que c'est qu'un schéma d'aménagement? C'est aussi des contrats de rivière ou des contrats de bassin versant. Alors vous, ici, vous avez des contrats de lac et des contrats de rivière, puisque le lac est alimenté par plusieurs rivières et a lui-même un contrat spécifique qui permet, si vous voulez, de faire une gestion au plus près et au mieux de l'utilité et des usages de l'eau. Alors, ce qui permet de donner des objectifs de qualité auxquels, bien entendu, on doit se conformer. Alors, il est à savoir que, bien entendu, à travers le département, comme à travers tous les départements, il y a des rivières qui sont beaucoup plus problématiques que d'autres, qui ont beaucoup plus de difficultés d'avoir une qualité d'eau convenable que d'autres. Et à ces contrats de rivière, à ces sages, de mettre en place, si vous voulez, les mesures qui vont permettre de corriger, qui vont permettre aussi d'envisager des infrastructures qui seront à la fois correctives et à la fois quelquefois incitative pour les communautés de communes environnantes ou pour les industriels d'être contraints à des règles qui vont limiter ces pollutions. Puisqu'il faut atteindre en 2015, puisque c'est la directive aussi cadre, d'atteindre un bon état de l'eau en 2015. Nous sommes en 2010, c'est-à-dire qu'il reste 5 ans. Eh bien, Dieu sait s'il y a du travail dans les 5 ans qui viennent pour rendre la qualité de l'eau de nos rivières dans un bon état. C'est une directive qui a été envisagée par l'Europe. Toutes les régions d'Europe ont les mêmes contraintes, mais la France est toujours en retard. Et pour ne vous citer qu'un exemple qui ne correspond pas à notre région, certes, mais qui est tout à fait significatif, c'est qu'en Bretagne, par exemple, la France paye des sommes colossales à l'Europe pour n'avoir pas respecté certaines contraintes de qualité de l'eau. Bien entendu, nous ne voulons pas en arriver à ce stade-là dans nos régions. Par conséquent, il faut s'armer et se mettre au travail pour améliorer les choses. Vous savez très bien que sur le lac d'Aix-les-Bains comme sur le lac d'Annecy, on a révélé ces dernières années des problèmes de pollution PCB, par exemple. Bon, PCB, il y avait très longtemps qu'il était à la fois interdit, qu'il était normalement en 2010, tout le traitement de PCB doit être fini. Il en reste 350 000 tonnes à gérer. Donc vous voyez bien qu'on est loin de la réglementation, on est loin de la réalité. Et malheureusement, si vous voulez, qui en font les frais? Eh bien, les riverains, les gens qui ont à utiliser cette eau ou qui ont à se servir de cette eau. Il faut savoir que, par exemple, le problème d'Annecy et d'Aix-les-Bains, qui est un peu le même, c'est que les PCB sont essentiellement dans les sédiments, c'est-à-dire dans le bas du lac. Le seul problème, c'est que, si j'ai bien compris, il y a une petite bestiole qui est peu agréable, qui malheureusement sévit, c'est la puce d'eau. Et que pour contrer cette présence de puces d'eau, on remue les sédiments, c'est-à-dire qu'on remue aussi les PCB. Donc vous voyez, suivant ce qu'on veut faire, suivant l'utilité que l'on veut avoir de tel ou tel endroit, eh bien on va avoir des traitements qui sont ambivalents, qui sont même contradictoires, et ces contrats de rivière, ces contrats de bassin, ces contrats de versant vont justement permettre d'essayer de quantifier ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc vous voyez bien qu'en matière d'eau potable, en France en particulier, on a effectivement des règles qui sont assez strictes pour vous donner au robinet de l'eau potable, c'est-à-dire que l'eau du robinet, c'est une eau qui est la plus contrôlée des eaux qui peut circuler, mais néanmoins avec des contraintes énormes. Hein, donc, d'accord, je vais me dépêcher pour terminer, pour laisser la place aux autres. Alors, dans votre secteur, où il y a quand même beaucoup de zones humides, vous savez aussi que c'est des zones qu'il faut particulièrement protéger, puisque c'est des réserves de faune et de flore qui sont nécessaires pour que la biodiversité persiste dans nos régions, qui sont quand même des régions qui sont très riches en qualité de faune et de flore et qu'il faut savoir conserver. Alors je vais laisser là, parce que de toute façon je reprendrai la parole après si nécessaire, mais j'ai oublié beaucoup de choses, donc n'hésitez pas après à me poser des questions. Merci.
Je remercie Jacqueline. J'ai oublié de souligner qu'elle était, on ne connaît pas encore complètement les listes d'Europe Écologie. Eh bien, Jacqueline est en position qu'on appelle éligible, c'est-à-dire que si les gens de la région et du département votent favorablement aux propositions qu'on fait avec Europe Écologie, elle sera vraisemblablement à l'Assemblée régionale. Ce que je lui souhaite... Ensuite, nous donnons la parole à Robert Rigaud. Alors, les Aixois le connaissent tous. Il a été 31 ans directeur de l'aquarium d'Aix-les-Bains. Il a commencé au parc national de Port-Cros. Puis après un passage à l'ONF, il est arrivé à Aix-les-Bains. Il est resté jusqu'à son départ à la retraite. Il va nous parler de la stabilisation du lac du Bourget, des conséquences sur la faune privée. De pouvoir regagner à certaines périodes le grand fleuve qui est le Rhône. Je me souviens d'avoir discuté, moi, à une époque, avec le président du syndicat intercommunal, André Blin, qui m'expliquait, qui me parlait déjà de ça, en ayant discuté avec toi de cette question. Voilà, et puis il parlera aussi peut-être du problème des PCB sur lequel il s'est penché. Voilà, Robert, la parole est à toi pendant 10 minutes à peu près.
Merci. Bien, bonsoir. Et moi, je vais rester plus dans un domaine que vous connaissez mieux, c'est-à-dire le lac du Bourget. Alors, je vais quand même me permettre de vous rappeler ses caractéristiques morphométriques. Le lac du Bourget, c'est le plus grand lac naturel de France. Il fait 18 km de long, 3 km 400 de largeur. Il fait 4400 hectares et son volume d'eau, c'est 3 milliards de mètres cubes d'eau. C'est en gros la consommation annuelle de la population française en eau potable. Donc c'est une ressource importante à préserver, bien sûr. Et sa profondeur maximum est de 145 mètres, avec une profondeur moyenne de 80 mètres. Voilà un petit peu pour vous resituer ce lac du Bourget que vous voyez tous les jours. Alors, moi je vais vous parler de deux sujets qui m'ont interpellé, c'est la stabilisation du lac. Effectivement, depuis 1980, le niveau du lac est régulé à la côte NGF à 231,20 m en hiver, c'est-à-dire du 15 octobre au 1er juin, et 231,50 m en été, du 1er juin au 15 octobre. Si les bateaux s'y retrouvent, le lac, lui, perd tous les bénéfices écologiques des étiages naturels. Alors je vais vous expliquer, quand le lac descendait, on peut savoir qu'en 1976, le lac du Bourget est descendu d'un mètre, ce qui était conséquent, mais ça a eu pour avantage d'avoir une végétation herbacée qui s'est implantée tout autour du lac, dans les plages qui étaient comme ça libérées, et à la remontée du lac, c'était une bonne production de zooplancton qui servait pour la faune piscicole de bordure. Actuellement, donc le lac, les étiages sont impossibles. Alors pour quelle raison a-t-on fait ça? Eh bien, c'est surtout pour écréter les crues du Rhône. En fait, le lac va devenir une sorte de bassin de compensation. Et vous savez qu'en novembre 1944, le lac est monté de 3,50 m de son niveau actuel. Donc on peut imaginer que s'il y avait une forte crue avec des fontes de neige au mois de février très importantes, on aurait une crue beaucoup plus subite et soudaine que par le passé. Et ça, c'est un phénomène. Pour quelle raison ceci a été fait? Eh bien, c'est pour permettre une urbanisation de la région lyonnaise, et en particulier de Lyon, où maintenant, le lac du Bourget va écréter en quelque sorte les crues. On peut imaginer qu'avec la régulation du lac, au compte indiqué, une montée beaucoup plus soudaine, et l'on peut penser que les zones du bord du lac seraient plus affectées. Depuis maintenant 30 ans, puisque la régulation du lac a été opérée en 1980, le lac a eu des effets négatifs sur les roselières et le peuplement piscicole. D'autre part, cela a eu pour effet de favoriser l'érosion de la benne lacustre, support physique de la roselière, fragiliser les tiges par accumulation des flottants, donc comme il n'y a plus de marnage, et concentrer l'énergie de la houle sur une même tranche d'eau. Toute une frange du lac n'est donc plus exondée, ce qui a pour conséquence de limiter la dépollution des sédiments par l'action bénéfique de l'oxygène de l'air. Ensuite, de réduire la progression des roselières par la germination des rhizomes. La régulation du lac a occasionné tous ces inconvénients. Comme dans d'autres lacs régulés, le lac du Bourget n'échappe pas au fait, à savoir la diminution de la production piscicole de bordure, puisqu'il n'y a plus ces marnages. Autre phénomène à développer, le transit des poissons vers le Rhône et vice-versa. On risque d'arriver un jour à une consanguinité des espèces de poissons, puisqu'ils se reproduisent toujours avec les mêmes individus. Alors que par le passé, il y avait un transit par l'exutoire naturel du lac du Bourget, qui est le canal de Savière, et les poissons avaient la possibilité de regagner le Rhône et de revenir, et vice-versa, alors qu'actuellement, pour regagner le Rhône, ils sont obligés de passer l'écluse. Vous voyez à peu près le phénomène dissuasif de cette écluse. D'autre part, on a eu un constat. Si vous avez été pêcheur, vous avez capturé des petites ablettes qu'on appelle ici mirandelles. Depuis la régulation du lac, cette espèce a quasiment disparu. Voilà. Alors que faudrait-il faire? Alors l'idéal serait d'une baisse exceptionnelle de 40 cm à l'automne. Néanmoins, ça concerne près de 25 000 bateaux qui sont sur le lac. Il serait nécessaire de curer les ports. Il faudrait enlever 20 à 30 000 mètres cubes de ces ports. Alors, où les rejeter? Surtout pas dans le lac. Parce que les analyses ont démontré maintenant que dans ces sédiments, il y a énormément et de PCB, de métaux lourds, etc. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire concernant la régulation du lac. Et je serai en mesure de répondre à vos questions tout à l'heure, à la fin des interventions. Le deuxième sujet qui m'a interpellé aussi, c'est le problème des PCB. Alors, polychlorobiphényle, appelé plus couramment le pyralène. En 2006, l'Europe a adopté de nouvelles réglementations concernant la teneur limite en PCB dans la chair des poissons. Le seuil retenu par le règlement européen s'est avéré 7 à 8 fois plus élevé, plus sévère que celle qui s'appliquait en France. La nouvelle norme européenne admet 8 pictogrammes par gramme de chair de poisson. Pour mémoire, un pictogramme égale à 1 millionième de gramme. Néanmoins, sur une cohorte de 17 humbles chevaliers, alors l'humble chevalier c'est un salmonidé, espèce endémique du lac du Bourget, c'est l'humble de alpin, Salvinus alpinus. Cette espèce vit effectivement au contact du fond, qu'on appelle aussi le benthos, et on a trouvé dans la chair de ce poisson, en 2008, 16 pictogrammes par gramme. Ce fut sans appel, le préfet effectivement interdit dans le cadre de principe de précaution, c'est un mot à la mode maintenant, le préfet interdit immédiatement la commercialisation et la consommation de l'humble chevalier. Alors, en ce qui concerne, par contre, au mois de juillet, le lavaret, qui est une espèce aussi endémique du lac du Bourget, c'est un corégone appelé ferra au lac Léman et lavaret au lac du Bourget. Celui-ci, malgré que la teneur moyenne était de 6,5 pictogrammes, fut également interdit à la commercialisation et à la consommation. Ça, ce fut quand même un petit peu étonnant, parce que cette espèce, le lavaret, c'est une espèce pélagique, c'est-à-dire qui vit en pleine eau. Et on s'est posé un peu la question de savoir pourquoi lui aussi était contaminé. En fait, pendant une période de l'année, au printemps essentiellement, se détache du fond une petite larve qu'on appelle une larve de chironome, que les pêcheurs connaissent bien. Et effectivement, c'était cette larve de chironome qui contaminait au titre des PCB, ce lavaret. D'autres analyses ont été réalisées et actuellement, ce poisson ne fait plus l'objet d'une interdiction au niveau de la commercialisation ni de la consommation. Par contre, des analyses ont été réalisées sur l'homme le chevalier, je vous l'ai dit, l'anguille, la brème, la tanche et le gardon. Ces espèces sont dorénavant interdites à la commercialisation et à la consommation. Alors, par contre, d'après les analyses, il n'y a pas eu d'incidence sur la potabilité de l'eau ni sur la baignade. D'autre part, ce qui est rassurant, il n'a pas été trouvé de teneur significative de métaux lourds, pesticides organochlorés ou naphtalènes. À ce sujet, des associations de défense de l'environnement, et je vais me permettre de les citer, Adrilac, et puis Équilibre Nature-Espace, qui réside à Brison-Saint-Innocent, et Tresserve Alternative, dont je suis encore le président, nous sommes mobilisés et nous avons écrit au préfet pour suivre cette évolution au niveau de ces PCB. Bon, c'est le résultat du retour de lettre du préfet que je viens de vous citer. Alors, les conséquences de l'interdiction de cette pêche, et peut-être Yves y reviendra, on s'est aperçu qu'en interdisant la capture du lavaret, on a cette année un stock important de ces poissons dans le lac et qui sont très appréciés, bien sûr, par les pêcheurs professionnels, mais qui sont aussi très appréciés par les pêcheurs amateurs qui capturent ce poisson. Alors, Actuellement, il y a le problème du thon rouge en Méditerranée. On veut interdire la pêche pour reconstituer les stocks. Et là, on a un exemple à l'échelle moindre du lac du Bourget, où on s'est aperçu qu'en interdisant la pêche pendant un certain temps, on arrivait à reconstituer des stocks qui avaient quasiment disparu. Voilà, c'était la fin de mon intervention, mais je pourrai revenir sur les questions que vous aurez à poser. Merci.
Merci Aubert. Voilà, on est vraiment dans un sujet qui passionne les Aixois particulièrement. Je vais maintenant donner la parole à Vincent Compara. Alors Vincent, il est physicien du CNRS à la retraite. Depuis de longues années, il milite pour le retour des services publics dans la gestion publique. Je résume un petit peu. Hein. Avec l'association, une association de Grenoble, et le groupe des élus écologistes, il a imposé le retour en régie municipale du service de l'eau. Et il en a été administrateur de 2000 à 2008. Donc, il y a beaucoup de points qu'il va aborder, toujours dans un temps très limité. En particulier, ce qui apparaît dans le dialogue que l'on peut lire entre Cécile Duflot et Daniel Mitterrand, c'est que la gestion de l'eau a souvent été accompagnée d'affaires de corruption. Ensuite, la remarque que la mise en place d'une régie municipale n'est pas très compliquée, mais qu'elle présente de nombreux avantages, en particulier pour une vision à long terme sur les questions d'eau. Donc, voilà un petit peu les choses qu'il va aborder, et je le remercie d'être venu de Grenoble hein, pour ça, après ce combat qui a été mené en compagnie d'un gars qui s'appelait Avrillier.
Alain. Il s'appelle toujours.
Alain Avrillier. Qui s'appelle toujours et qui est sans doute encore ardent.
Vraiment. Voilà. Qui continue son combat.
Bonsoir. Très rapidement, donc, on a entendu la pollution par tout un tas de choses chimiques, etc. Et moi, je vais vous parler de la pollution par des pratiques politico-financières hein, qui n'ont pas existé qu'à Grenoble, d'ailleurs, et qui, dans certains endroits, continuent, et malheureusement, dans le monde entier. Grenoble a été, disons, un exemple particulier, puisqu'en 1994, un ministre de la République, maire de la ville de Grenoble, est mis en examen pour corruption. Simplement parce qu'il avait échangé le service de l'eau, qui était en régie municipale depuis pratiquement un siècle, pour des intérêts personnels, pour payer des campagnes électorales, ou pour payer des petits voyages, ou autres agréments, ou même un appartement à Paris, etc. Et donc, on s'est aperçu, nous, Grenoblois, à ce moment-là, que, quand on s'est mis à attaquer cette question, qu'il n'y avait pas qu'à Grenoble que ça se passait, et qu'on était pris lorsque le service était géré par des grands groupes comme ce qu'on appelle la Générale des Eaux, la Lionne des Eaux, qui ont depuis changé de nom parce que les affaires de corruption effectivement les avaient atteintes, et ça pèse maintenant Veolia pour la Générale ou Suez pour la Lyonnaise. Mais elles continuent, disons, à gérer, et ce sont des leaders mondiaux de la gestion de l'eau, et grâce, disons, au système français de délégation de services publics, elles ont amassé un capital très important, elles sont devenues les plus importantes système de gestion de l'eau au niveau mondial. Et une fois que... Alors, système français, effectivement, de délégation de services publics, avantage beaucoup cette façon de voir, puisque permet des contrats de longue durée, et pour les usagers de l'eau, une fois que le contrat est passé, eh bien, il est impossible de le remettre en cause. Autant vous pouvez remettre en cause la délibération du conseil municipal ou de l'intercommunal qui a délégué. Mais le contrat, vous ne pouvez pas l'attaquer. Le contrat, c'est entre les deux parties, entre la ville et le gestionnaire, et l'usager ne peut pas l'attaquer, ne peut pas l'arrêter. Et à Grenoble, on a eu donc à affronter, en 1989, donc Alain Carignon a passé une délégation de service public avec une filiale à Lyonnaise des Eaux. Et depuis, évidemment, on s'est battu, avec Raymond Avrillier, on s'est battu pour essayer de faire casser ce contrat. En 1995, il y a changement de majorité. On était, nous aussi, avec le maire socialiste Michel Destot, dans la liste au deuxième tour commune. Et on s'était engagé avec lui à remunicipaliser l'eau. Malheureusement, on s'est vite aperçu que le maire socialiste n'entendait pas remettre en cause les contrats, voulait changer le système de gestion par une société d'économie mixte, mais en gardant les contrats, qui pour nous étaient inacceptables, puisque c'était des contrats issus de la corruption. Et encore une fois, comme on ne peut pas remettre en cause le contrat, eh bien on a essayé d'asphyxier le système par des attaques juridiques de tout un tas de délibérations, d'avenants, etc., soit sur le plan administratif, soit sur le plan judiciaire. Et au bout d'un certain nombre d'années, on est arrivé, disons, à faire que la chose s'arrête, puisque le maire d'Estaut a... les nouvelles élections allaient arriver, et il savait très bien que s'il voulait être réélu, il fallait qu'il règle ce problème. Et en 2000, on est rentré, on a recréé une régie municipale qui a été gérée donc de 2000 à 2008 par notre groupe, hein, puisque le président de la régie était quelqu'un des écologistes, c'est Raymond Avrier, et moi-même dans le conseil d'administration. Et c'est là qu'on a appris et qu'on a vu tout l'intérêt de cette gestion directe par rapport à la gestion privée. La grande différence, une régie municipale peut être mal gérée. Une délégation de services publics par un privé peut être bien gérée. Mais il y a quand même des différences fondamentales entre la gestion directe publique et la gestion privée. C'est qu'un privé a un contrat à durée limitée et son horizon de gestion est cette fin de contrat. Ça peut être 8 ans, ça peut être 10 ans, il y a eu des contrats de 30 ans, maintenant c'est interdit. Mais, et donc tout le problème, ça s'arrête uniquement à la vision de la fin du contrat. Et 10 ans dans ces gestions de l'eau, c'est quelque chose de très court, puisque vous savez, toutes les tuyauteries, c'est des choses qui durent beaucoup plus longtemps. Et puis la protection de l'eau, etc., toute la qualité de l'eau, elle se gère sur des dizaines et dizaines d'années. Et c'est là qu'on a découvert qu'en fait, à la régie, eh bien, on travaillait pratiquement sur un siècle. Alors que le privé, auparavant, travaillait sur 10 ou 15 ans. Et pendant les 10 ou 15 ans où il a été là, eh bien, les investissements sur le renouvellement des réseaux n'ont pas été faits. Il a fallu maintenant qu'on rattrape. Donc on a, nous, pas baissé le prix de l'eau. Simplement, on a multiplié par 3 les investissements de qualité pour permettre, disons, aux services d'avoir cette qualité. Pour nous, là, vraiment la bataille du retour en régie publique, en régie à autonomie financière et morale, eh bien, a été une vraie bataille à la fois pour la solidarité, parce que dans le prix de l'eau, en fait, étaient mis des impôts cachés, puisque Carignan avait passé le contrat, parce qu'il avait mis la ville de Grenoble dans une situation financière très difficile, et du coup, la Lyonnaise des Eaux, pour pénétrer dans l'eau, lui a fait un très gros chèque qui permettait, disons, de passer par le service de l'eau et puis rembourser au budget principal de la ville, permettait à la ville d'alléger un petit peu ses difficultés. Et ça, les usagers, donc, les usagers de l'eau ont payé dans leur facture, en fait, des impôts qui étaient cachés. Et donc, voilà, c'est une bataille d'abord de solidarité, et puis il y a une bataille écologique, parce que le contrôle public est supérieur au contrôle privé, encore une fois, pour tout un tas d'aspects, et on le voit bien dans la façon dont sont gérés tout un tas d'aspects de l'eau. Et puis, évidemment, sur le plan démocratique, c'est quelque chose d'essentiel, puisque dans la régie de Grenoble, on a créé un comité des usagers, et ce comité des usagers se réunit 3 fois par an, et c'est avec le comité des usagers que s'élabore la réflexion sur le prix de l'eau à très long terme. Chaque année, et l'avantage aussi de la régie, c'est qu'on fixe les tarifs annuellement et non pas dans un contrat qui dure pendant 10-15 ans, dans lequel, effectivement, il y a des profits qui sont tout à fait excessifs sur le dos, disons, des usagers. Voilà, très rapidement, je répondrai ensuite à vos questions. Mais il est tout à fait possible, je ne connais pas la situation d'Aix-les-Bains ou du coin, mais il est tout à fait possible de revenir en régie municipale. Bon, le cas de Grenoble est un peu particulier, mais on va dans beaucoup d'endroits en France et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'endroits et actuellement, il y a quand même un retour vers la gestion publique et ça, c'est une très bonne chose.
Je remercie vivement Vincent de sa densité d'intervention, de sa clarté et des exemples qui font rêver peut-être les Aixois dont je fais partie. Je vais donner maintenant la parole à notre ami Yves Pacalet. Alors Yves Pacalet, beaucoup de gens le connaissent, si vous vous souvenez des films de Cousteau, lorsque Cousteau disait « Ah, j'ai dit à Pacalet de faire ci, j'ai dit à Pacalet de faire ça, et Pacalet faisait. Hein » On avait un peu l'impression. Alors, Yves, c'est notre tête de liste départementale pour ces régionales. C'est un Savoyard, il vient de Tincave, au-dessus de Bozelle. C'est un philosophe et naturaliste. Il est l'auteur de bouquins qui ont défrayé la chronique des écolos avec L'humanité disparaîtra, bon débat, et qu'il a compensé par Sortie de secours, et puis Le grand roman de la vie. Donc il a travaillé avec le commandant Cousteau pendant 15 ans, il a participé au Grenelle de l'environnement dans le groupe Agriculture et Alimentation, et il travaille, si j'ai bien compris, sur un nouvel ouvrage qui va sortir un de ces jours. Je ne sais pas quand.
Moi non plus.
Lui non plus. Donc, il va nous replacer le débat local et national dans une vision plus large des problèmes de l'eau dans le monde. Hein. Et donc, je lui laisse la parole. On aura ensuite un temps de débat. Je pense que là, il est 21h, vers 21h30, on aura terminé avec Yves, on aura des questions. Ça nous donnera une bonne heure pour débattre, puis on conclura et puis on vous remerciera. Voilà Yves, à toi.
Merci, on essayera, si on est élu, si on a quelques voix, de montrer à tout le monde que le problème de l'eau pour nous est vraiment essentiel. Et on essaiera d'apporter des solutions, que ce soit celle de la dépollution, des régies, on va mettre en œuvre tout ce qu'on a dit ce soir et ce qu'on va dire d'ailleurs. Je voudrais simplement, pour parler de l'eau, évidemment évoquer Cousteau, mes années sur la mer, dire que pour moi l'eau ça a été pour ainsi dire toute ma vie, enfin une grande partie en tout cas, de l'enfance à mon âge actuel, j'ai toujours surveillé la goutte d'eau qui passait. Et si on pense à cette question-là, à cette question de l'eau en termes généraux, on peut se dire que c'est peut-être la question la plus importante avec celle de l'énergie pour le 21e siècle. J'ai dit dans L'humanité disparaîtra avant des baraques qu'il y avait deux fluides, deux liquides, qui pouvaient être les deux liquides de la guerre au 21e siècle, c'est le pétrole et l'eau potable. L'eau douce. Et je crains toujours que dans le monde, on soit sur la pente de la guerre et que l'eau en soit une des causes essentielles. Nous avons, nous, nos problèmes de l'eau. Nous devons, entre des professions différentes, entre des groupes d'intérêts différents, entre des quartiers, entre des villages, entre des villes différentes, régler nos problèmes de l'eau, parce que l'eau est une ressource qui est limitée, est une ressource qui est de plus en plus demandée. On en a besoin pour tous les usages, domestiques, industriels, agricoles, surtout agricoles. 70% de l'eau passe dans le secteur agricole. Et on doit partager, on doit arriver à trouver des ententes, faire comme on peut. Il y a des régions du monde où ça se gâte, sérieusement. Si on regarde tous les grands fleuves, on s'aperçoit qu'ils sont source de conflits. Avec Cousteau, on en a exploré beaucoup. Je suis retourné sur d'autres récemment. À l'heure actuelle, il peut y avoir des guerres, par exemple, entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, parce que la Turquie fait des barrages dans la montagne pour capter l'eau qui coule et qui donnera plus tard l'Euphrate à l'ouest, le Tigre à l'est. Sans l'Euphrate et sans le Tigre, la Syrie et l'Irak n'ont plus d'agriculture, ni même plus de vie possible. Et la Turquie fait des barrages pour arrêter cette eau. Et il y a à l'heure actuelle déjà des potentialités de conflits très graves dans cette région-là. Je reviendrai sur la question du Proche-Orient, de la Palestine, mais j'ai des souvenirs aussi de même nature sur le Nil. Le Nil, il y a de plus en plus, surtout les affluents du Nil, et puis sur le cours principal avec Assouan, des barrages qui servent à alimenter de l'irrigation, des villes. Eh bien, ceux qui sont en dessous n'ont pas envie de voir cette eau qui disparaît, et la veulent aussi. Et tous les grands fleuves qui traversent plusieurs pays, et même ceux qui traversent un seul pays et plusieurs provinces, sont l'objet d'une sorte de surveillance mutuelle qui dégénère parfois en conflits violents. Et le problème, c'est que ça empire. le réchauffement climatique s'en mêle, mais les prélèvements tout au long des cours d'eau sont de plus en plus importants. Et j'ai des souvenirs totalement consternés de visites que nous avons faites à des grands fleuves. Le fleuve jaune, le Huanghe, comme on veut, en Chine, eh bien, dans une grande partie de l'année, n'apporte plus du tout d'eau à la mer. Tout est pris au fur et à mesure pour des usages divers, et l'approvisionnement des glaciers du Tibet est en train de baisser, parce que les glaciers sont en train de régresser. Le Mekong apporte encore de l'eau à la mer, mais l'Indus, par exemple, n'apporte quasiment, pour une partie de l'année, plus d'eau à la mer. Vous allez à l'embouchure au delta de l'Indus, il n'y a plus d'eau. De la même façon, quand vous allez dans le delta du Nil, pendant une grande partie de l'année, à cause des barrages, des prélèvements tout au long du cours, eh bien, aux deux branches de Damiette et de Rosette, eh bien, vous avez un filet d'eau, à peine, et des fois, pas d'eau du tout. De la même façon, dans un pays riche, aux États-Unis, le Rio Grande est quasiment à sec quand il arrive à la mer. De l'autre côté, le Colorado, on y est allé, avec Cousteau aussi, et on a vu, il se jette dans la mer de Cortés, le golfe de Californie qui est au Mexique, mais tout au long du cours du Colorado, eh bien, les prélèvements sont tellement forts, aussi bien pour alimenter Las Vegas que Los Angeles et toutes les cultures de la Californie, que quand vous êtes à l'embouchure au delta du Colorado, eh bien, il n'y a plus du tout d'eau qui arrive à la mer. Et cette situation-là, il faut bien l'avoir en tête, parce que nous, ici, nous sommes encore dans une région où on a des problèmes avec l'eau, mais c'est encore une région où il y a de l'eau. Il y a beaucoup d'endroits du monde où il n'y a plus d'eau du tout pour un grand nombre des habitants qui y vivent. Et on a rappelé tout à l'heure ce chiffre absolument terrifiant que dans le monde, il y a 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et c'est un problème que nous devrons régler, nous, tous ensemble, tous les hommes. C'est un problème qui, parfois, fait extrêmement mal. J'ai des souvenirs, là aussi, que je raconte de temps à autre pour montrer à quel point les choses peuvent être difficiles. Dans les oasis du Sahara, quand vous allez voir la façon dont l'eau est distribuée pour que tout le monde, tous les paysans qui poussent les légumes, les fruits, les palmiers, pour que tout le monde ait un peu d'eau, vous avez un mètre de l'eau. Et ce mètre de l'eau, quand vous l'interrogez sur la façon dont il répartit cette eau, il vous dit qu'il a réparti en morceaux de temps. Et pour le mètre de l'eau dans les oasis du Sahara, l'eau, c'est du temps. C'est une notion extrêmement philosophique, mais qui résume bien l'importance de l'eau. Or, partout dans les déserts, à force de pomper les nappes phréatiques fossiles, comme on l'a fait en Libye pour le fameux fleuve intérieur, vous savez, où on mettait les cultures sur de l'eau qu'on pompait dans une nappe phréatique qui datait de la dernière glaciation, mais partout dans les déserts, l'eau est de plus en plus rare, elle est déjà rare, elle devient de plus en plus, et avec le réchauffement climatique, les endroits qui sont déjà secs deviendront encore plus secs. Et donc c'est pathétique de voir ces oasis qui tout simplement sont en train de mourir. Vous allez dans les oasis de Marrakech, qui étaient parmi les plus belles, eh bien maintenant, il n'y a plus assez d'eau qui descend de la classe, et l'eau est pompée partout, y compris d'ailleurs pour faire des golfs, pour arroser des golfs, et vous avez à côté les palmiers, et toutes les cultures traditionnelles qui sont en train de mourir. Et on parlait du Proche-Orient. Je suis allé, quand j'étais président pour la France de Green Cross International, qui est l'organisme, l'organisation non gouvernementale qu'avait fondée Gorbatchev pour justement essayer de résoudre dans le monde quelques-uns des problèmes de l'eau et de la paix, eh bien je suis allé à Jéricho. Jéricho, vous savez, c'est sur le Jourdain. Le Jourdain se jette un peu après dans la mer Morte. Et quand vous allez à Jéricho, vous êtes saisi parce que c'est la plus vieille ville du monde. C'est la ville qui a été fondée il y a 10 000 ans, la plus ancienne ville qu'on connaisse. Et quand on va sur la colline du Sultan, on marche sur ce qui est le reste archéologique de la plus vieille ville du monde. Et le problème, c'est que dans le Jourdain, il n'y a plus d'eau. Le Jourdain est alimenté par les rivières, les ruisseaux qui descendent du plateau du Golan. Et là, on est en plein dans les questions de guerre. Ces rivières alimentent le lac de Tibériade. Et puis juste après le lac de Tibériade, Israël a fait des barrages et prend la quasi-totalité de l'eau qui allait avant dans le Jourdain pour l'envoyer dans le grand canal israélien qui va alimenter les cultures jusque à Beersheba, à la limite du désert du Negev. Et on a fait une mission là-bas pour essayer de réunir Israéliens, Palestiniens et Jordaniens pour essayer de répartir un peu mieux les eaux disponibles. Parce que si Israël prend trop d'eau, ça veut dire que dans le Jourdain, on va rejeter l'essentiel des ordures des Palestiniens, mais que ça va repasser par les nappes phréatiques qui sont toutes très très affleurantes et toutes petites, les distances sont très courtes, et que donc les Israéliens, s'ils répartissent mal l'eau, s'ils n'aident pas les Palestiniens à avoir quelques stations d'épuration, eh bien ils en souffriront aussi. Et on avait réussi à réunir ces trois peuples sur quelques projets, j'espère que ça arrivera un peu plus loin. Et je vous raconte ça parce que près de Jéricho, il y a le lieu. Et il y a des panneaux indicateurs, on y va, sur le Jourdain, où le Christ, selon la Bible, a été baptisé par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et je suis allé à cet endroit-là. Et quand vous arrivez dans cet endroit dont vous avez pu rêver, que vous soyez croyant ou non, en ayant lu la Bible, les épisodes figurent dans d'autres livres saints, vous êtes pris par cette histoire qui est millénaire. Et quand vous arrivez, vous avez un petit ruisseau qui est aussi brun que le pire des égouts. Et vous vous dites que même le plus puissant des dieux n'aurait jamais voulu se faire baptiser dans un égout pareil. Et c'est un peu le symbole de ce qui arrive aux ressources aquatiques mondiales. Vous savez aussi que l'eau paraît très abondante sur la Terre, mais que si la Terre avait le volume d'une orange, toute l'eau, y compris l'eau des mers, ça serait simplement une larme. Et vous savez que l'eau douce, c'est seulement quelques pourcents de la totalité de l'eau, l'essentiel est dans les océans, et que dans l'eau douce, l'essentiel, c'est les glaces de l'Antarctique et du Groenland. Les eaux qui coulent sont des eaux extrêmement rares, extrêmement précieuses, hélas polluées, surexploitées, hélas, en voie d'inutilisation par les hommes à force d'imbécilité. Nous sommes en train d'assécher des nappes phréatiques gigantesques, comme la fameuse nappe Ogallala, qui est à l'est des Rocheuses. Les agriculteurs pompent dedans depuis plusieurs décennies, et le niveau baisse. Toutes les nappes phréatiques sont soit en train d'être trop pompées, surexploitées, soit en train d'être polluées, soit la plupart du temps, hélas, les deux. Les rivières sont elles-mêmes très polluées, on en a parlé ici. Et le combat pour l'eau doit, à mon avis, toujours être mené avec cette idée que l'eau, c'est la vie, c'est le titre de la soirée que nous avons ensemble, mais ce n'est pas du tout une image, c'est une réalité. La planète Terre a pu, il y a 4 milliards d'années à peu près, produire la vie, la voir apparaître, parce qu'elle est située juste à la bonne distance du Soleil, parce qu'elle a juste la bonne masse, c'est un hasard astronomique, pour avoir de l'eau sous ses trois états. De l'eau sous forme gazeuse, de l'eau sous forme liquide et de l'eau sous forme solide, la glace. Si on était plus à quelques pourcents plus près du soleil, il n'y aurait que de la vapeur d'eau. Si on était à quelques pourcents plus loin, il n'y aurait que de la glace. On a les trois. Et cette eau liquide, elle est absolument indispensable à notre existence, elle est indispensable à nos civilisations, et elle est l'objet d'avidités multiples qui, je crois, sont en train de nous créer des problèmes majeurs du XXIe siècle. Et notre devoir, maintenant, localement, nationalement, internationalement, c'est d'essayer, si j'ose dire, de mettre un peu de paix dans l'eau du monde. C'est une des tâches les plus difficiles que nous avons à accomplir.
Merci Yves. Je vous propose de prendre la parole maintenant pour poser surtout des questions. Si vous avez un point de vue à donner, on ne va pas vous empêcher de le donner. Ce qui serait bien, c'est soit si vous parlez de votre place, c'est de parler, de demander la parole, donc je vous la donnerai, de façon à ce qu'il y ait une sorte de tour de rôle qui s'établisse, ou peut-être mieux, c'est que vous veniez ici et puis qu'à tour de rôle, vous parliez dans le micro de façon à ce que tout le monde puisse entendre votre question. Est-ce que ça marche comme ça?
Oui, oui. Hein?
Voilà, alors, le premier qui se lance, ou la première, qui se lance à l'eau. On peut parler de sa place, si on parle fort. Bon, bah ça va, on a terminé la soirée. Oui. Voilà.
Les propos de M. Pacalet sont passionnants, c'est un très bon conférencier. Est-ce qu'il peut quand même nous dire, en matière de la région, comment il voit les choses?
Est-ce que je peux dire que vous êtes un des responsables du MoDem sur Aix-les-Bains?
Oui, oui.
Voilà, et conseiller municipal.
Et j'ai accepté volontiers votre
invitation. Voilà, je vous remercie.
Je suis là avec quelques collègues.
D'accord. Ben, vous êtes bienvenu.
Merci.
Bon, je ne vais pas être le seul à répondre là-dessus. Nous avons tous l'idée que, sur le tableau général que j'ai dressé, lutte contre la pollution, économie, respect des réserves, rétablissement de certaines sources d'approvisionnement, notamment des lacs, respect de la montagne en général, d'où vient l'eau. Et ici, on le sait tous, on va être extrêmement vigilant. Alors si on peut, avec l'aide de gens qui savent, qui ont agi localement, qui ont déjà des capacités à dire rapidement ce qu'il faut faire, si on a suffisamment de puissance au sein de la région, il est sûr qu'on essaiera de porter un regard tout à fait... particulier sur l'eau et de faire passer dans la réalité régionale ce qui constitue nos préoccupations. Alors la région elle-même, elle a des prérogatives un peu variées, un peu dispersées sur l'eau. Hein. C'est pas vraiment le centre de sa capacité, mais il y a beaucoup de possibilités d'incitation. Et un de nos grands slogans à Europe Écologie, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai adhéré avec beaucoup de plaisir à ce mouvement-là, c'est la condition écologique. Enfin, il y a un mot compliqué, éco-conditionnalité, moi je le prononce pas parce que personne n'arrive à le prononcer, mais la condition écologique qui serait, si on avait le pouvoir de le mettre en œuvre, un moyen eh bien, de conditionner, puisque le nom est là, toutes les activités pour lesquelles la région est appelé à financer, à donner des finances, à aider, eh bien, ce serait un moyen de vérifier que, par exemple, telle subvention donnée à telle usine, à tel programme, etc., est compatible avec la conservation de la qualité et de la quantité de l'eau. Ça ne serait pas les seuls critères, mais ça serait un critère extrêmement important. Si on considère qu'on veut nous demander de faire, par exemple, un aménagement supplémentaire sur le lac du Bourget et qu'on voit que ça va entraîner des difficultés supplémentaires pour la faune et la flore du lac du Bourget, eh bien, nous, en tant que région, on ne va pas accepter de donner des crédits pour ce programme-là. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on fera. Alors, évidemment, pour l'eau, comme on n'a pas une compétence générale, ça sera des moyens, pas détournés, mais au coup par coup, d'appliquer notre programme de respect de cette réserve absolument indispensable aux générations actuelles et aux générations futures.
Quelqu'un d'autre? Merci. Présentez-vous, comme ça j'aurai pas de mal à... éventuellement, si vous le souhaitez.
Anne-Marie Paviotte, je suis une simple citoyenne. Bon, j'étais dans le groupe de démocratie participative pour la région. Mais ma préoccupation, c'est si le débit du Rhône baisse beaucoup. Parce qu'il y a aussi pas mal de prélèvements, entre autres à Aix, on prélève pour le golfe, pour l'hippodrome, et bon, tout le long, c'est la même chose. On prélève aussi vers Avignon, dans les nappes phréatiques. Alors, qu'en est-il ?
Je voulais dire encore juste un petit mot, c'est qu'un fleuve comme le Rhône est un fleuve transfrontière, comme ceux dont j'ai parlé, qui sont plus grands que le Rhône, mais n'empêche qu'on a les mêmes problèmes. À l'heure actuelle, les glaciers qui alimentent le Rhône sont en train de régresser, y compris le glacier de la source du Rhône, le glacier du Rhône, qui est en train de reculer à une vitesse, hélas, fantastique. Ça veut dire que le régime des eaux est en train de changer. Il n'y a plus ce régime en partie glaciaire, avec la fonte des glaciers en été qui alimentent le fleuve pendant la saison où il y a le moins d'eau. Donc on aura des étiages, c'est-à-dire des baisses de niveau en été, qui risquent d'être de plus en plus importants. Ces étiages-là, ces baisses de niveau en été sont préoccupants pour tout le monde, parce que c'est le moment à la fois où les agriculteurs pompent le plus dans la nappe phréatique pour arroser le maïs et d'autres cultures, donc ils ont besoin d'eau, les nappes phréatiques baissent, il n'y a plus assez d'eau qui est amenée par le fleuve, et c'est aussi le moment où, par exemple, alors les citoyens ont besoin aussi, les industriels également, mais les centrales nucléaires aussi. On a déjà eu plusieurs années de suite ce problème important avec la baisse du niveau du débit du Rhône en été. Il y a des moments où on a déjà été à la limite d'arrêter des réacteurs et où on sera bientôt obligé de les arrêter parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour refroidir ces centrales nucléaires-là. Ce qui prouve au passage que le nucléaire n'est pas du tout une énergie d'abord aussi douce que le disent certains au gouvernement, ni une énergie de remplacement pour le pétrole aussi facile à utiliser. S'il y a plus assez d'eau en été dans le Rhône, eh bien on sera obligé de fermer les centrales nucléaires, sauf à faire monter la température de ce qui reste du Rhône à des 27, 28, 30 degrés, et à ce moment-là, tuer toute la faune qui reste en aval. Est-ce que peut-être quelqu'un...
N'hésitez pas.
C'est là où on voit bien que les multi-usages de l'eau doivent être répartis en fonction des besoins. Toute la population a besoin de l'eau, à la fois sous forme d'eau potable, à la fois sous la forme d'eau industrielle. Et cette répartition, il va falloir la faire en bonne et due forme et que chacun soit contraint par des obligations auxquelles il devra être... il sera contraint. Et c'est une nécessité si on veut conserver cette eau qui nous est tant utile. Voilà, effectivement.
Il y a quelqu'un qui demande la parole là-bas.
Je rajouterais juste que Aix-les-Bains et Tresserve prélèvent l'eau du lac du Bourget pour la consommation, des personnes. Donc il est fondamental de préserver la qualité de l'eau du lac du Bourget, de faire en sorte que le problème des PCB, des métaux lourds, soit résolu le plus rapidement possible, parce que et d'autres villes risquent un jour de prélever l'eau du lac du Bourget pour leur alimentation domestique.
Il y a une personne qui demande... Vous remarquerez qu'on boit l'eau du robinet. Oui, il y a une personne là-bas. C'est Christian Serra, hein, conseiller municipal de la minorité. Tu veux venir ici, Christian, on t'entend mal.
Ouais.
S'il te plaît.
Bonsoir, oui. Donc j'avais une question plus générale et plus locale. Plus générale, donc on a parlé donc de l'impact de l'industrie, etc., sur l'eau, etc. Mais inversement, quelle conscience on peut avoir sur les citoyens, sur l'éducation à l'utilisation de cette ressource, comme vous l'avez rappelé, qui est limitée. Donc qu'est-ce que vous avez comme projet au niveau de l'éducation, de la participation? Ça, c'est la question générale. Et la question locale, elle surgit depuis 15 jours à peu près, je crois. Il y a Toulouse, où une action citoyenne a permis de condamner un contrat de 30 ans par rapport à une agglo. Et donc je voulais savoir si vous êtes au courant de cette initiative. Et nous, je vais vous rappeler rapidement le cas qu'on a actuellement sur Aix-les-Bains. On a un contrat de 30 ans depuis 88 qui finira donc en 2018. Est-ce qu'on peut être dans ce cadre-là au niveau municipal? Et deuxièmement, au niveau intercommunal, quelle action on peut avoir déjà en termes d'action, je dirais, citoyenne, voire d'action régionale, pour choisir une sorte de régie intercommunale, si possible? Quelle action?
Il va répondre dans la...
La question des
agis. Il va répondre
pour la régie. De...
Oui, alors donc, le contrat chez vous se termine en 2018. C'est très difficile, disons, de faire casser des contrats.
Très vite.
Bon, quand c'est d'un affirmage, c'est plus facile que lorsque c'est une concession. Les risques financiers sont moins importants. Le problème, donc, il y a deux cas, il y a plusieurs cas, disons. Soit il y a des irrégularités évidentes, mais bon, s'il date depuis longtemps, je pense que malheureusement, les choses ont dû être à peu près réparées. Les groupes, je crois que c'est la SOR chez vous qui gère, donc ce sont des groupes qui sont très très pointus au niveau juridique, etc. Et en général, les failles sont difficiles à trouver. Alors, par contre, ce qui est tout à fait possible, c'est quand même que les élus... Alors, je ne sais pas comment les élus contrôlent et quels sont les éléments, disons, de rendu de la délégation est faite aux élus. Est-ce qu'il y a un contrôle qui est approfondi ou pas trop approfondi? Là, je crois qu'il y a des... Donc, disons, les élus, c'est souvent leur responsabilité, cet abandon, disons, de la gestion au privé. Il y a quand même des moyens d'améliorer la gestion, même sous contrat privé. À Grenoble, l'assainissement n'est toujours pas revenu en régie... Enfin, il y avait pas la station d'épuration n'existait pas, donc quand Carignan l'a mise en route, il l'a donnée à une société qui était millionnaise, mi-générale. Et actuellement, donc Raymond Avrier, dont je parlais tout à l'heure, a été le vice-président qui a géré cet aspect-là et a complètement rénové le contrat, puisque là, il n'y avait pas la corruption dans ce contrat-là, donc il n'y avait pas de possibilité de l'arrêter sans gros problème financier. Et il a simplement remis en état la gestion et obligé, disons, les gestionnaires à baisser le prix parce qu'ils faisaient des surprofits, etc. Et simplement, les élus peuvent très bien faire contrôler par des cabinets spécialisés la gestion du service, peuvent améliorer, peuvent faire passer des avenants, etc. Et préparer, à la fin, il faut s'y prendre au moins un an et demi avant la fin d'un contrat pour pouvoir passer en régie, parce que quand même, il y a tout un tas de processus administratifs à mettre en place. C'est pas compliqué, d'autant plus que maintenant, il y a beaucoup de villes qui sont repassées. C'est mieux connu qu'à l'époque, à Grenoble, quand on est revenu en régie, il a fallu, disons, travailler un peu sur tous les aspects juridiques. J'en profite d'ailleurs pour dire que, comme la région a quand même une compétence sur la recherche, elle pourrait passer quand même des contrats de recherche sur ces questions de l'eau, soit sur les aspects techniques de dépollution, soit sur les aspects techniques, disons, de gestion, et puis sur les aspects juridiques et financiers, il peut y avoir des groupes dans les universités qui travaillent là-dessus et aident puissamment les collectivités à pouvoir effectivement gérer beaucoup mieux. Alors, ça, je pense que c'est la région qui peut le faire, et donc Europe Écologie est tout à fait bien placée pour le préconiser. Alors donc, effectivement, la gestion intercommunale est tout à fait possible et même intéressante, je pense, parce que malheureusement, la France, c'est la commune qui a la priorité de la compétence de l'eau. Et souvent, c'est quand même mieux de gérer ça. Les investissements, notamment pour la dépollution, et les investissements pour l'eau, il y a des facteurs d'échelle qui peuvent jouer à l'intercommunal. Voilà.
Sur l'aspect pédagogique qui a été soulevé... Dans le cadre du CISALB, c'est le comité syndical, intersyndical de l'assainissement du lac du Bourget, et dans le cadre du contrat de bassin versant qui est financé en partie par la région, il y a un volet pédagogique important. Donc il faut rencontrer les gens de la mission pédagogique du CISALB et qui sont à même d'apporter toutes les informations de 4 à 99 ans sur les problèmes de l'eau et les problèmes d'assainissement. C'était là la question que vous aviez posée, là aussi. Quoi de plus? Pour l'instant, rien.
Disons que la formation est une des compétences larges de la région, et il est absolument évident que si nous avions la chance de remporter la région, il est fort évident que la formation à tout âge et dans toutes les fonctions serait largement accrue dans des domaines aussi importants que celui de l'eau, comme d'autres activités, comme les activités agricoles, parce qu'on voit bien le manque de connaissances chroniques qui fait que les gens n'osent pas se lancer dans d'autres, par exemple, dans d'autres formes d'agriculture, parce qu'ils ont eu une formation qui n'est plus adaptée à ce qu'on a besoin à l'heure actuelle. Par conséquent, la région serait un moteur très important dans cette formation. Et comme la compétence de la région est essentiellement la formation continue et les lycées, c'est effectivement ceux qui seront concernés. Mais on peut le faire à tous les échelons de l'école. Je passe la parole à Yves.
Non, je ne veux pas rajouter sur ce sujet, juste pour dire qu'une des revendications qu'on avait avec Cousteau déjà, que j'avais formulée, puis qu'on avait mis ensemble dans un texte, il y a plus de 30 ans, c'était qu'il fallait commencer la formation à l'écologie en classe maternelle. Et la mener jusqu'à 99 ans, comme on l'a dit. Et je pense qu'en effet, avec la région, on a une possibilité, peut-être pas du jour au lendemain, de faire des cours entiers d'écologie depuis la maternelle jusqu'à l'âge le plus avancé, mais on peut aller dans ce sens-là. Et moi, j'ai bien l'intention, si j'ai la possibilité de faire ça, de mettre en œuvre ma revendication, l'écologie, à partir de la classe maternelle. Alors, évidemment, là-dedans, il n'y a pas seulement les petits papillons, et il y a les grandes questions de l'eau, expliquer comment, comment à l'heure actuelle aussi on accepte de payer de l'eau en bouteille extrêmement chère, et comment on pourrait avoir la même et même épurée pour 1000 fois moins cher, simplement en buvant l'eau du robinet et en ayant des stations d'épuration partout où il en faut. Et ça, on peut expliquer très vite à des enfants que c'est un secteur absolument essentiel de leur avenir à eux.
Oui, quand on reçoit sa facture d'eau, généralement, le citoyen, oh là là, encore une facture à payer, qu'est-ce que c'est cher, oh là là, la redevance, agence de bassin, oh là là, la redevance communale, oh là là là. Mais quand il achète 10 bouteilles d'eau, il ne se pose pas la question. Et ça coûte 1000 fois plus cher. Oui, donc je pense qu'on est devant une incohérence de consommation qui est complètement anachronique par rapport à la réalité devant laquelle nous sommes et devant laquelle il faut se dire que nous sommes face au mur et qu'il faut changer. Et pour changer, il faut s'y mettre dès à présent et chacun en se donnant la main et en faisant les choses le mieux possible pour que tout le monde puisse en bénéficier.
Moi, j'aurais voulu vous poser une petite question sur les barrages.
Si vous voulez vous approcher.
Oui. Oui, bonjour. J'aurais voulu simplement vous poser une petite question sur les barrages, parce que bien souvent, on dit les barrages, tout l'inconvénient que ça peut avoir, ça a beaucoup d'inconvénients. Et, je ne connais pas, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je pense aussi, il me semble que ça a aussi beaucoup d'avantages. Ça a des avantages, je dirais même que c'est vraisemblablement indispensable. Alors peut-être qu'il ne faut pas faire des barrages n'importe comment. Si on laissait l'eau complètement libre partout, je ne sais pas, ça permet peut-être d'écréter les crues, ça permet des tas de choses. Enfin, je voudrais avoir votre avis là-dessus sur les barrages.
Les barrages, c'est un sujet assez vaste. Alors d'abord, dire une première chose, ça sert à faire de l'électricité, de l'hydroélectricité, d'une manière renouvelable, d'une manière propre, encore qu'il y a des moments pas si propres que ça. C'est donc une bonne façon de trouver, de varier les sources d'énergie. Dans nos régions européennes, et en particulier en Savoie et dans les Alpes, on a quasiment équipé tous les sites possibles. Alors, chez nous, c'est essentiellement l'hydroélectricité, donc une énergie propre, renouvelable, écologique, avec quand même des bémols. Quand on vide les barrages, par exemple, pour les curés, à ce moment-là, toute la boue part brutalement dans la vallée, et ça provoque des gros dégâts sur tous les animaux et toutes les plantes qui vivent en aval. En dehors de ça, c'est en effet une électricité assez écologique. Je dis tout de suite, il n'y a aucune électricité qui est entièrement écologique. Il n'y en a pas à 100%. Il y en a qui sont quasiment 0%, et il y en a qui sont de façon honorable. Alors le problème des barrages, il est que chez nous, on a équipé à peu près tous les sites vraiment disponibles. Il y a des personnes qui se lancent dans les micro-barrages et dans la micro-centrale. Et qui arrivent et qui disent aux communes, voilà, vous avez un torrent ici, on vous l'équipe, et on vous produit au bas de la pente l'électricité pour, alors ça dépend de la taille du torrent et de la centrale, mais pour 2000 habitants, etc., on vous fait tout ça. Le problème, c'est que là, on arrive à un conflit entre l'eau qui était utilisée pour faire de l'énergie, de l'électricité, et puis tous les autres usages de l'eau. C'est-à-dire qu'en général, ça tarit les sources de la commune, qui se retrouve avec des emmerdements pas possibles pour arriver à alimenter ses réservoirs en eau potable. Et puis, l'eau est indispensable à toutes les plantes et à tous les animaux. Le torrent, c'est pas simplement de l'eau qui descend, c'est de l'eau qui alimente la vie autour de lui et qui le fait dans tout son parcours. Et si on prend l'eau au sommet et qu'on fait une conduite forcée jusqu'en bas de la vallée, eh bien, c'est la stérilisation de tout le lit du torrent et de toutes ses annexes. Et ça, c'est parfois extrêmement grave et on ne peut pas laisser faire ça n'importe où parce que c'est facile de dire on vous produit de l'électricité pour pas cher, mais en même temps, s'il faut aller acheter de l'eau ailleurs pour fournir les réservoirs de la commune, je ne vois pas où est le gain. Et si, comme ça arrive dans certains endroits, les vaches à l'alpage n'ont même plus assez d'eau en été parce qu'on a capté partout pour boire et qu'on est obligé de la monter en citerne, j'ai vu l'été dernier, je ne vois pas ce qu'on gagne à cette affaire-là. Alors sur les grands barrages du monde, là, la vie est parfaitement claire. Plus le barrage est grand, plus c'est catastrophique pour l'environnement. Le barrage des Trois Gorges, qui vient d'être inauguré il y a 2-3 ans en Chine, est un grand désastre, et sera un grand désastre. Mais quand on est allé faire notre mission avec Cousteau en 1977 sur le Nil, ça faisait 2 ans seulement que le barrage d'Assouan avait commencé à être mis en eau, j'avais écrit le livre peu après, et on avait regardé tous les inconvénients du barrage d'Assouan, et il y avait 3 avantages, écréter les crues, permettre l'irrigation, faire de l'électricité, et il y avait une liste d'inconvénients terrifiants. Et ces inconvénients-là, malheureusement, les Égyptiens les ont tous eus. Et tous les barrages qui sont faits dans le monde, les grands barrages sur le Colorado, sur la Narmada en Inde, sur le Yangtze en Chine, les barrages qui sont en projet sur le Sénégal et sur les autres grands fleuves, sont tous des catastrophes agronomiques, des catastrophes climatiques, des catastrophes écologiques, pour un profit qui est un profit en électricité, en irrigation locale, qui est extrêmement faible. Plus le barrage est grand, grosso modo, plus le désastre est important. Il vaut mieux faire, à la rigueur, plusieurs barrages moyens. C'est moins catastrophique pour l'ensemble de l'écosystème.
Oui.
Une des autres compétences de la région, c'est les transports. Transport et eau, c'est le transport fluvial. Avez-vous un avis sur cette technique qui limiterait peut-être l'usage des poids lourds?
Là, c'est un petit peu la même chose. En France, en France en général, dans notre région en particulier, quoique le Rhône ait été canalisé sur quasiment tout son cours pour la navigation fluviale, on n'a pas beaucoup développé le transport par les canaux. C'est un transport qui en lui-même est évidemment beaucoup plus écologique que le transport par les camions, par les norias de camions. Et nous, ici, on a un problème gravissime, et si vous voulez, on en reparlera, avec le fait que une morienne va devenir le principal lieu de passage des camions avec un doublement probable du tunnel du Fréjus qui dit pas son nom, mais qui est en préparation à l'heure actuelle, puisqu'on fait un tunnel soi-disant de sécurité. Enfin, il faut un tunnel de sécurité, mais enfin un tunnel de sécurité 2 fois plus large que ce qu'il faudrait, parce qu'en fait, dans quelques années, on va y faire passer des camions. Donc on a un problème de transport énorme chez nous. D'une façon générale, le transport par les canaux est un bon transport, une bonne forme de transport, économe en énergie, et qui devrait être, pour tous les transports lourds et qui n'ont pas besoin d'urgence, développé largement. Il y avait eu un gros problème quand même avec le fameux canal Rhin-Rhône qui passait dans le Doubs et qui défigurait totalement toute une partie de la vallée du Doubs. À l'époque, c'était, je crois, Dominique Voynet qui était ministre des Transports et qui avait arrêté ce canal-là. Parce qu'il y a des moments où on se dit que, bon, le canal, c'est bien, c'est plus écologique que la route, ça transporte des volumes beaucoup plus importants dans un périmètre qui est beaucoup moins grand que dans une largeur d'occupation du sol moins grande que par la route. Mais il y a des moments aussi où il y a des zones d'intérêt écologique absolument essentielles, et c'était le cas de cette partie de la vallée du Doubs, et on ne pouvait pas laisser traverser cette zone d'intérêt écologique essentielle, avec des zones humides, avec une biodiversité extrêmement importante. On ne pouvait pas laisser saccager tout ça pour faire un canal énorme, puisqu'il était prévu d'être énorme. Là aussi, on pourrait rediscuter si c'est des choses plus petites et moins saccageuses.
Ce transport fluvial va encore entraîner des pollutions des eaux.
Le transport
fluvial.
Oui, mais pas plus que le transport par camion, parce que tout ce qui dégouline des camions, ça finit dans l'eau quand même. Et c'est beaucoup plus polluant encore. Donc on y gagnerait quand même.
Moi, je voudrais rajouter une petite note là, sur cette question des transports comme sur d'autres questions comme l'histoire des téléphones mobiles. Très souvent, les gens qui se posent à la vision écologique de la transformation de la société disent « Oui, vous voulez nous faire remonter au Moyen-Âge ». Je me souviens de Michel Rivasi qui, venant ici pour la campagne des européennes, nous disait « Mais nous acceptons le fait de la mobilité, par exemple. On est dans une société qui est devenue mobile, où les gens ne vont pas admettre tout d'un coup qu'on ne puisse plus se déplacer aussi facilement. Simplement, ce que l'on veut, c'est arriver à reconvertir ces déplacements de manière à ce qu'ils soient le moins dangereux, le moins polluant possible. De la même manière, le téléphone mobile, c'est un fait de société. Après, il reste à informer suffisamment les gens, à faire peut-être le travail que l'on est en train de faire sur Aix-les-Bains de réflexion et aussi d'expérimentation, pour faire que les antennes soient peut-être moins dangereuses elles-mêmes, qu'il y ait un système d'antennes moins intense, etc. Il y a toute une réflexion à faire, mais on est quand même tout à fait inséré dans la société dans laquelle nous vivons. Hein ? On ne veut pas retourner en arrière, mais on ne veut pas en même temps mettre en danger notre santé et la santé de nos enfants, de nos petits-enfants. Hein ? Un des grands problèmes qu'on a peu évoqué, mais lorsque les Amis de la Terre ont passé le film avec le succès qu'on connaît, nos enfants nous accuseront. C'est ça le titre, hein, je crois.
Oui.
Il y avait une démonstration extraordinaire qui montrait à quel point l'environnement était cause de cancer. Hein. Le film, d'ailleurs, débutait par un conférencier qui disait « Quels sont ceux dans la salle qui n'ont pas eu ou qui ont eu autour d'eux quelqu'un qui a eu un cancer ?» C'était quelqu'un qui a eu, et on voyait toute la salle qui levait la main. Hein. Je crois que là, il y a des phénomènes de société aussi qu'il faut qu'on arrive à maîtriser au point de vue de la santé, au point de vue de l'environnement.
Il y a une question.
Oui, il y a une question. Pardon, Marc. Attends, on ne t'entend pas. Si tu veux venir.
Okay. Il dit, ne tenterait-on pas l'expérience de savoir s'il y a des personnes ici qui n'ont pas été
proches. Ça, c'est...
De gens qui
je ne sais pas si ça peut plaire à tout le monde. Hein. Vous me dites si ça dérange beaucoup, on ne le fait pas du tout. Mais,
non, mais des familles.
Est-ce que ce serait une bonne expérience à faire de faire ce qu'il y a au début de ce film, c'est-à-dire qu'on demande aux gens qui sont dans la salle de lever la main s'ils ont été eux-mêmes atteints par un cancer, s'ils ont autour d'eux, dans leur famille, des gens qui ont été atteints par le cancer, s'ils ont dans leur connaissance ou dans leur lieu professionnel, connaissance de gens qui ont été malades. Et à chaque fois, on lève la main, et je pense, on ne va peut-être pas le faire, parce que ce n'est peut-être pas la soirée pour le faire, mais il y aurait beaucoup de mains qui se lèveraient ici, et ce que je voudrais dire, c'est qu'on a fait le tour à travers de l'eau. À travers de l'eau, il y a un tas d'atteintes à la qualité de l'eau qui favorise le développement de ces maladies, on va dire que c'est les maladies du siècle. À travers, on a cité les pesticides, on a cité les
médicaments, les antibiotiques, oui. les oestrogènes.
Les antibiotiques, toutes ces accumulations-là font que, je vais détailler un petit peu, je fais partie d'une génération qui n'a pas été trop touchée dans sa jeunesse parce que la qualité des aliments, la qualité de l'eau, la qualité de l'air dans lequel j'étais, malgré le choix issu de la banlieue parisienne, était à l'époque moins atteinte. Tout le milieu était moins atteint que maintenant. Par contre, ce qu'il faut penser, c'est aux générations qui sont derrière, à partir des années 60-70, jusqu'à... Il y a un petit peu de prise de conscience à partir des années 90, mais c'est très timide. Et il y a toute une catégorie de gens qui sont moins âgés que moi, mais qui ont cumulé à force dans l'alimentation, dans le mode de vie, dans la détérioration de notre environnement, des atteintes, et c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire, c'est pas spécial à la France, c'est pas spécial, mais dans les pays dits développés, on voit une augmentation considérable des maladies, dégénératives, alors le terme est peut-être un peu fort. Donc on aurait peut-être pu faire, voir si on était très dégénéré en levant nos mains.
D'accord, merci. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes avant qu'on conclue. Donc, les dernières questions. Oui. N'hésitez pas à vous présenter.
Bonsoir, Marc Porcheron, Association FIPO. J'ai une petite question, notamment par rapport au sujet qui est l'eau. Dans le cadre d'une campagne. Alors, vous l'aviez précisé tout à l'heure, toutes et tous, c'est un des rares sujets, justement, de ce siècle que l'on peut pointer comme étant un enjeu majeur et fondamental. Et est-ce que, ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que ce genre de sujet est fondamentalement politique, la manière d'organiser ça et vivre ensemble, est-ce que c'est un sujet de parti politique? Ou est-ce que c'est un sujet, j'expliciterai un peu par la suite, est-ce que c'est un sujet
trans-parti
politique? Pourquoi je lève pourquoi je prends le micro, c'est à la vue des interventions de part et d'autre. Alors, je ne veux pas enlever un argument électoral, c'est pas du tout le truc, parce que c'est vous qui l'avez dit, un sujet trans-parti politique. Et alors qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un de Grenoble, sur Grenoble, il y a des groupements, par exemple, de scientifiques qui travaillent sur le développement durable, à la constitution de modèles. Peut-être qu'un jour, il y aura les modèles qui serviront aux politiques pour décider, justement, de la condition écologique. Est-ce qu'à aujourd'hui, peut-être que ça existe, peut-être que c'est l'objet des agences de bassin, je ne sais pas, justement, la question, c'est à titre informatif, est-ce que ces plateformes transpartis politiques civils existent pour informer, travailler, arbitrer, décider sur un sujet qu'est l'eau?
Oui, c'est drôle.
Alors, moi, ça fait 40 ans que je suis écolo. J'ai commencé tout après mai 68. Pendant toutes ces années, on a eu vraiment l'impression de prêcher dans le désert. Pas parce qu'on parle de l'eau, mais vraiment, c'était ça. J'ai toujours prétendu aussi que ce qui serait bien, et c'était mon slogan, c'est que l'écologie aille polluer tous les partis. J'ai essayé, j'ai fait des conférences devant des parterres du Parti Socialiste, de l'UMP, des autres formations, quand l'écologie est arrivée, entre guillemets, à la mode. Le problème, c'est que quand on a une grande idée, et l'idée de l'écologie, c'est l'idée de la compatibilité entre les humains et leur biosphère, c'est-à-dire au bout du compte, les questions que je pose philosophiquement ou ironiquement, la survie de l'humanité au 21e ou 22e siècle, quand on a ça dans la tête, on se dit que la question est très importante. Beaucoup de gens se disent maintenant que la question est très importante. J'ai participé au Grenelle de l'environnement organisé par Sarkozy. Au bout du compte, quand on a dans la tête l'idée que tout ça est très important, on a une décision, des décisions à prendre. Le discours sur le fait qu'on doit protéger l'environnement, maintenant, tous les partis le tiennent, sans aucune exception. Le discours sur lequel il faut faire quelque chose, tous les partis le tiennent, ce discours-là. Reste à savoir si les actes sont en accord avec le discours. Quand on nous dit qu'il faut du développement durable et qu'en même temps on prépare des autoroutes à camions supplémentaires, eh bien on est obligé de conclure que ça ne sera pas un développement durable du tout. Et à ce moment-là, on se dit que, et c'est la raison pour laquelle moi je me suis lancé dans cette histoire politique, alors que je pouvais très bien continuer à écrire mes livres chez moi tranquillement, on se dit qu'on a besoin d'avoir un certain nombre de leviers dans la région, mais pour d'autres élections, d'autres instances du pouvoir, pour orienter de façon un peu plus conforme avec nos idées ces grandes questions écologiques. Et la condition écologique, l'éco-conditionnalité qu'on veut mettre à tous les saupoudrages qu'on pourra faire si on est élu à la région, eh bien, est une condition essentielle. Si on me dit « je veux faire une autoroute supplémentaire ici ou là », je dirais non, parce que c'est écologiquement incompatible. Si on me dit « je veux construire un immense complexe touristique, les pieds dans l'eau, dans le lac du Bourget », je dirais non, je n'apporterai pas le moindre crédit à ça. Et c'est pas parce qu'ensuite les gens qui auront voulu faire ça diront « oui, mais on va faire quelque chose de très écolo, vous allez voir », que je les croirai sur parole, parce qu'en général, ça n'arrive pas. Et c'est d'ailleurs une des questions que nous avons maintenant avec les Jeux Olympiques d'Annecy. Nous ne disons pas « non, pas du tout », mais dans les conditions telles qu'on nous les présente, d'organisation de ces Jeux Olympiques-là, avec les dégradations de l'environnement qui sont celles qui sont promises si les programmes actuels sont mis en jeu, on dira non, pas ces Jeux Olympiques-là. On en veut éventuellement, mais des Jeux Olympiques conditionnés réellement par l'écologie, et ça, on va y veiller très 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 près.
Je poursuivrai. Le Grenelle de l'environnement n'était pas terminé, qui devait limiter les autoroutes, qui devait limiter les aéroports, que déjà des grandes agglomérations continuaient, poursuivaient, affirmaient qu'ils partaient et qu'ils continuaient leur programme. Mais que sert des partis politiques qui font des choses comme ça? Peut-on les suivre? Peut-on les croire? Peut-on imaginer que ce ne soit qu'une politique de communication? Arrêtons le massacre. Il faut quand même changer notre manière de faire si l'on veut préserver notre environnement et pouvoir vivre tous ensemble sur Terre sans avoir la guerre à notre porte. Parce que la guerre de l'eau, la guerre du pétrole, la guerre des ressources est en train de surgir. Mais on continue à gaspiller, on continue à utiliser des biens de consommation inutiles. On continue tous les jours. Alors, moi, je suis scientifique. Par conséquent, je suis pour une recherche scientifique qui soit de qualité. Mais ne faisons pas des produits dont on sait déjà qu'ils seront préjudiciables pour tous. À l'heure actuelle, on crée le besoin de téléphones portables pour tout le monde avec Internet. Est-ce nécessaire au milieu de la forêt de se connecter sur Internet pour avoir son horaire de train? Je pense quand même qu'on arrive à des incohérences, qu'on ait besoin de communiquer, qu'on ait besoin... Mais avec ça, disparaissent les cabines téléphoniques. Vous ne pouvez plus, si votre portable est en panne pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez plus atteindre quoi qui que ce soit.
Ah bah, c'est les signaux de fumée, hein.
On est devant des obligations qui nous sont faites par la consommation qui sont incohérentes. Je pense que là, si vous voulez, si on s'engage en politique, alors que la majorité, nous ne sommes pas des politicards, nous sommes issus du monde associatif, où depuis longtemps nous travaillons pour essayer de rendre la vie facile et plus aisée pour tout le monde, c'est bien parce qu'on voit qu'on ne prend pas quelques initiatives personnelles pour essayer de changer les choses, rien ne changera, puisque les grands partis n'ont pas l'intention de changer, puisqu'ils sont aux mains des lobbies de toutes sortes.
Juste un petit mot sur le problème, disons, de transparti ou pas. Je crois que dans la Constitution, d'ailleurs, les partis sont reconnus, parce que c'est fondamental, hein, que le débat d'idées, que le choix démocratique s'exprime, etc. Et en même temps, bon, la personne qui posait la question, à juste titre, il faut qu'on développe aussi des services publics. Les agences de bassin sur l'eau, par exemple, c'est quelque chose de pas du tout démocratique. Je crois que c'est des outils très importants qui brassent des milliards, puisque dans votre facture d'eau, c'est quelques centimes d'euros pour chaque mètre cube. Mais quand vous calculez tout le nombre de ménages et de consommateurs de l'agence Méditerranée Corse, etc., c'est des milliards. Et la gestion de ces milliards, elle va pour la dépollution, pour tout un tas de choses importantes, mais d'une certaine façon, l'usager a très très peu d'accès à ça. Donc je crois que pour tout un tas d'agences et de services publics, pour justement les observatoires, etc., hein, qui soient effectivement des services publics, donc en dehors, disons, du problème partisan, bien sûr qu'il faut que les élus gèrent et en fonction, disons, de ce qu'ils ont... eu comme délégation au moment des élections, mais je crois qu'on a besoin effectivement de mise en place de tout un tas d'outils publics pour que globalement, et qu'ils soient démocratiquement gérés, c'est-à-dire qu'il y ait des comités d'usagers et qu'il y ait tout un tas d'aspects. Et malheureusement, en France, la reconnaissance, disons, du rôle de l'usager est très très mal faite. Ce n'est pas les quelques commissions sur les services publics locaux qui peuvent s'en charger, malheureusement. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que les écologistes ont beaucoup de choses à dire là-dessus.
Vous avez dit, M. Pacalet, que vous avez parlé notamment du développement durable. À ce titre, je voulais savoir si ce terme ne devient pas un terme fourre-tout.
Si, tout à fait.
Les Américains, les Anglo-Saxons emploient l'expression de greenwashing, c'est-à-dire laver plus vert. Moi, je dirais la peinture verte. C'est vrai que dans beaucoup de sociétés industrielles, commerciales, dans beaucoup de discours politiques, on en est au stade de la peinture verte. C'est-à-dire qu'on met quelques plantes vertes devant le siège social et on dit on a fait du développement durable. Bon, en tant que scientifique, on sait très bien que l'écologie est une science très compliquée. Et que, avant de dire que quelque chose est durable, il faut au moins avoir fait quelques études de faisabilité du programme et puis savoir quelles sont les réelles conséquences de ce programme. On ne peut pas s'intituler développement durable comme ça. Alors, en effet, bon, en plus, on sait que c'est un oxymore, c'est-à-dire ces deux termes contradictoires. Dans un système fermé comme l'est la Terre, écologiquement et physiquement fermé, un système limité, on ne peut pas avoir un développement indéfini de quoi que ce soit. C'est tout simplement écologiquement et physiquement impossible. Donc développement durable, c'est une impossibilité logique. Alors on peut l'admettre si ça veut dire on va essayer quand même de regarder un peu mieux ce qu'on fait, de faire moins de bêtises qu'on en a fait pendant des années et des années, de mettre une véritable préoccupation écologique dans nos productions. Tout ça, c'est des bonnes intentions. Après, il faut regarder si la réalité suit. C'est pas toujours le cas. Alors, on peut admettre le terme parce qu'il passe dans la langue commune. Moi, je l'emploie extrêmement peu. Je suis persuadé que, avec une population humaine en croissance perpétuelle, et qui a des exigences de qualité de vie calquées sur le feuilleton américain, parce que dans le monde, tout le monde a la télé, tout le monde sait comment vivent les riches américains californiens, tout le monde voudrait vivre comme ça, sauf que vous savez très bien, le calcul a été maintes fois fait, que si tout le monde avait le niveau de vie des américains actuels dans le monde, il nous faudrait 5 ou 6 planètes. Bon, donc, le développement durable, mettre tous les individus de la planète au niveau niveau américain, au niveau même européen, c'est une impossibilité complète. On en est au stade maintenant où on se pose la question de savoir comment on peut faire monter le niveau de vie des pauvres, parce que vraiment là, il y a du boulot, il y en a 1 milliard qui n'ont pas à manger suffisamment tous les jours, donc ceux-là, il faut effectivement les sortir un petit peu du trou dans lequel on les a mis. Mais ensuite, les plus riches, il va falloir qu'ils acceptent décréter leur superflu de façon à ce que les plus pauvres aient au moins accès au minimum. C'est une revendication que Gandhi avait déjà à son époque. Hein. Il disait « Il faudrait que vous, les riches, vous viviez un peu plus simplement pour que les pauvres puissent simplement vivre ». C'est un slogan de Gandhi que j'ai repris et que je pense nous ferions bien de reprendre nombreux.
Oui, juste un petit exemple.
Je pense qu'on va abréger, si vous permettez, hein, parce que théoriquement, 22h30, ça fait déjà pas mal. Je vois des gens
qui voulaient parler là-bas.
Il y a un monsieur qui veut parler.
Je vois. La question, elle était un peu spéciale, enfin pas spécialisée, mais c'est un point bien précis. C'est quand même une remarque sur les aéroports. Alors, est-ce qu'on a une idée de la... Vous avez une idée précise de la pollution que pourraient apporter les avions qui atterrissent notamment tous les week-ends. Il y en a
énormément.
L'aéroport de Nanterre,
tous les aéroports.
Sur le lac. Et puis, est-ce que l'aéroport de Chambéry, ou son doublement, comme on en parle, pour notamment pour amener des gens pour le ski, ça a un sens, sachant qu'on a l'aéroport de Saint-Olave, avec le TGV, qu'on a l'aéroport de...
Non, ça n'a pas de sens.
Alors, quelle est votre position là-dessus?
Rapidement.
Oui, alors d'une façon générale, les aéroports n'ont pas un avenir très brillant devant eux. Hein. Et là, on parlait du développement durable à l'instant. Dans les prévisions de développement du transport aérien, on croit rêver quand on lit les chiffres, parce que les responsables ont pris le développement, enfin la croissance, comme on dit, sur les quelques dernières années, et puis la projette sur les années du futur. Or, vous savez très bien qu'on n'a pas trouvé pour l'instant de remplacement pour le kérosène, que le pétrole, forcément étant demandé par de plus en plus de personnes et étant de plus en plus rare, va devenir de plus en plus cher, que donc les transports aériens vont redevenir de plus en plus chers. C'est une tendance globale, avec aussi le fait que il faudra bien que les gens se calment un petit peu quand même, parce que si on veut tous aller en même temps aux Maldives, ça va faire du monde là-bas, d'autant plus que les eaux vont monter et que les Maldives vont réduire de surface. Alors donc, on est bien obligé de se dire qu'il n'y a pas de développement à long terme pour le transport aérien. Alors évidemment, les aéroports locaux peuvent se piquer la clientèle les uns les autres et dire, nous, on a comme les compagnies essayent de se piquer la clientèle, ça fait partie du jeu commercial, mais globalement, je ne vois pas beaucoup d'avenir brillant pour le transport aérien. Alors, on peut aussi quand même peut-être se dire qu'il y a moyen de faire les choses plus calmement, pour de faire des prévisions à vraiment plus long terme, de regarder si vraiment un aéroport ici ou là est intéressant ou pas. Mais se jeter dans les nouvelles constructions d'aéroports ou d'autres choses en disant simplement ça va donner du travail, c'est vraiment le contraire du développement durable.
Oui, j'ajouterais que, par exemple, l'aéroport de Saint-Jouard, Saint-Étienne de Saint-Jouard, affiche des rendements absolument sublimes cette année, sachant qu'on va chercher dans le monde entier des gens qui viennent faire du ski chez nous. Est-ce que c'est raisonnable dans le contexte où il faut qu'on privilégie quand même du local, où on pollue avec, bien entendu, le kérosène, n'en parlons pas, et tous les produits qu'on met sur les ailes pour pas qu'ils givrent, qui se retrouvent dans les nappes phréatiques, parce que les problèmes de sol pollué aux alentours des aéroports est assez... on n'en parle pas, mais c'est loin d'être négligeable. Et par conséquent, tout ça, c'est un ensemble de choses auxquelles il faut penser, sans compter que les transports aériens bénéficient d'aucune taxe sur le pétrole. Et la taxe sur les produits pétroliers n'est pas payée par le transport aérien. Ce qui est quand même une aberration, ce qui permet effectivement aux fret d'arriver à des prix compétitifs, si bien qu'on a des kiwis de Nouvelle-Zélande qui concurrencent les kiwis qui sont faits dans la région alpine. On est quand même devant des aberrations. Il faut, le jour où on va vraiment payer les produits pétroliers au coût réel comme d'ailleurs le prix de l'énergie au coût réel, que ce soit l'énergie électrique venant des centrales nucléaires ou autres, eh bien à ce moment-là, on réalisera qu'on a sous-payé pendant très longtemps, mais que maintenant, la facture va être très chère, et très chère pour tout le monde.
Je vous propose de conclure, je vais faire ma petite conclusion, puis ce sera Yves qui fera la vraie conclusion. La première, c'est de vous remercier d'être venus aussi nombreux, hein, de remercier nos intervenants qui nous ont, je pense, j'espère, vous ont séduit par leur discours. Une grosse omission, c'est qu'on n'a pas parlé de l'eau thermale. Hein. C'est un sujet majeur à Aix-les-Bains, l'avenir des thermes. Ça nous semblait, on y a réfléchi un petit peu, ça nous semblait mieux de ne pas en parler du tout que d'en parler à la va-vite. Ça mérite une réunion entière. Hein. Alors, je sais, j'étais récemment à la réunion de, à l'Assemblée Générale d'Aix-Avenir. Hein, Christian Serra expliquait qu'il demandait un débat du conseil municipal entièrement là-dessus. Ça me paraît une proposition, en tout cas, que je partage, qui me paraît bonne. Il y a vraiment une réflexion à faire. J'ai beaucoup aimé ce que Vincent nous a dit sur l'idée des comités locaux. Au moment des élections municipales, j'avais demandé à ce qu'il y ait des comités de quartier. Bon, ça existe à Chambéry, mais à Aix-les-Bains, on les attend encore. Alors, moi, je vous invite à réfléchir maintenant sur ce que nous proposons. Donc, il y a des pliants. Le programme, proprement dit, n'est pas encore sorti. On est en train de travailler dessus. Sur notre capacité à mener à bien non seulement le combat écologique, mais aussi le combat social contre un type de société qui nous met droit dans le mur. J'étais à la réunion de la ville faite par notre député maire. Je lui ai fait la remarque en lui disant « Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte que le système capitaliste dans lequel vous fonctionnez, c'est un système qui nous mène droit dans le mur ?» Et j'aimerais, moi, en tout cas, tant que je serai ici, on aura une idée du système économique bien différente de celle-là et bien proche de celle des autres partis de gauche. Ensuite, je pense qu'il faut remarquer que ce système, il écrase non seulement les moins favorisés d'entre nous, mais aussi les classes moyennes, hein, et sans oublier les pays du tiers-monde. Je vous recommande une lecture passionnante. Il y a deux lectures passionnantes que je vous recommande. C'est « La haine de l'Occident » de Jean Ziegler, qui explique beaucoup de choses sur notre relation avec les autres pays du monde. Et le bouquin de Kempf, Hervé Kempf, qui s'appelle « Qui est-ce qui va me redire le titre ?»«
Comment
les riches détruisent la planète ». C'est un petit bouquin, il est court, mais il resitue vraiment bien les choses. « Comment les riches détruisent la planète ». Il doit coûter une dizaine d'euros et vous verrez qu'il vous apportera beaucoup plus que ça. Donc, d'autres solutions sont à trouver. Ce n'est pas sûr qu'on les trouve, nous, ce soir, ni... il faut qu'on y réfléchisse. On vous propose quelques solutions. Vous les trouverez dans nos documents au fil de la campagne. Un petit exemple, hein, c'est ce que disait Yves tout à l'heure, ou Jacqueline, c'est cette notion de circuit court, hein. Comment faire pour que les agriculteurs puissent continuer à vivre au pays et que nous, on puisse acheter leurs produits? Il y a un tas de réflexions là-dessus. Voilà. Avant de passer la parole à Yves, essayons de diffuser autour de nous l'idée que chacun doit voter, qu'il y ait le moins d'abstention possible. Chacun va voter pour ce qui lui convient. Hein, il n'est pas nécessaire que tout le monde vote pour l'Europe écologie. Je pense que chacun trouvera le parti qui lui convient, mais évitons d'avoir trop d'abstention, parce que sinon ça signifie plus grand chose. Voilà, je laisse la parole à Yves, et je vous invite, donc ceux qui seraient motivés, à s'inscrire sur le petit document, la feuille blanche que j'ai mise à la sortie, si vous voulez vous venir réfléchir avec nous aux solutions possibles.
Oui, mais moi, je ne veux pas faire de conclusion, parce que justement, je pense que les problèmes sont ouverts. Nous sommes en train, à la fois, de vivre, nous les hommes en général, et pas seulement les Rhône-Alpins, et pas seulement les Savoyards, un 21e siècle qui est un siècle dangereux. J'ai écrit dans mes livres que c'était le siècle le plus dangereux pour l'humanité depuis que l'humanité existe. J'en suis persuadé parce que les tensions sont en train de monter partout, les tensions nationalistes, les tensions religieuses, les tensions entre les groupes, entre les intérêts, entre les sociétés. Quand on voyage, comme j'ai un peu la chance de le faire, pour aller voir ce qui se passe dans le monde, on est effrayé par la montée de ces tensions. Les problèmes que nous avons abordés, dont nous avons abordé quelques exemples, en fait, se posent partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme énergie? Comment est-ce qu'on va réussir à nourrir autant d'êtres humains? Comment est-ce qu'on va réussir à éduquer autant d'êtres humains? Comment est-ce qu'on va réussir à faire avancer la démocratie dont on parlait, la façon la meilleure que nous avons inventée jusqu'à maintenant de nous relier les uns aux autres et de prendre des décisions collectives? Ces problèmes-là sont des problèmes qui sont, à l'heure actuelle, véritablement à la fois urgents et difficiles à résoudre. On a ce paradoxe que le monde est en danger, les hommes sont en danger, ils se mettent en danger eux-mêmes par la surexploitation de leur biosphère et par leur avidité qui les conduit à vouloir se taper sur la figure et de discuter après. Comment est-ce qu'on va réussir à empêcher cette folie des hommes de continuer son cours destructif, sachant qu'il faudrait peut-être beaucoup de temps pour éduquer les jeunes générations à être un peu plus pacifiques, mais sachant que d'un autre côté, nous n'avons plus de temps du tout. Nous sommes pressés par le temps. Et c'est pour ça que nous devons mener à la fois cette réflexion à long terme, au terme du XXIe siècle, qu'allons-nous devenir, nous les hommes, tous ensemble, sur cette terre toute petite pour tant de population. Et puis, cette réflexion qui nous mène à l'action immédiate. Nous avons besoin de nous prendre en main immédiatement, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau du village, de la commune, au niveau de la région, au niveau de la nation, au niveau de la terre entière. Je préconise, un jour ou l'autre, et si possible au XXIe siècle, les États-Unis du monde, pour que nous soyons tous les citoyens d'une seule terre, ce que nous sommes en fait, que nous ne voulons pas voir. Nous avons l'urgence. Et nous avons la nécessité d'avoir du temps. C'est parfaitement contradictoire. C'est un cas de figure qui ne s'est pas posé avant à l'humanité. Avant, l'humanité paraissait avoir le temps. Maintenant, on n'a plus le temps. Alors, pour avancer, il faut prendre des décisions locales de tous les jours, des décisions que nous avons évoquées en partie ici. J'espère que nous les prendrons. J'espère que nous irons dans cette bonne direction, cette direction d'une vie moins agressive envers elle-même et envers son environnement, cette décision de la sobriété heureuse, pour reprendre le mot qu'emploie mon ami Pierre Rabhi, je dis moi la philosophie du peu, être heureux avec moins sans toujours vouloir tout détruire, c'est le sens de l'engagement que nous avons pris, que j'ai pris moi personnellement, en allant mettre les pieds dans cette aventure électorale. J'espère bien que ça servira à quelque chose, que le vote que j'espère important pour les listes d'Europe Écologie servira à faire passer au moins quelques-uns des objectifs que nous avons pu aborder assez brièvement, mais enfin quand même de façon attractive ce soir. Merci à tous et puis à bientôt, peut-être pour d'autres
combats.
Oui, alors c'est après-demain. Après-demain, oui, c'est ça. Nous avons une autre réunion électorale à Lépin-le-Lac. Je crois que c'est du côté de la mairie, je ne sais pas où c'est exactement. Où nous parlerons aussi des problèmes qui ont été les nôtres ce soir et d'autres encore. Probablement un peu plus aussi de l'agriculture, parce que ce soir on n'en a pas parlé beaucoup. L'agriculture qui nous paraît un domaine extrêmement important, notamment comment raccourcir les circuits de façon à ce que les agriculteurs du coin puissent nourrir les gens du coin et comment évidemment on peut arriver à améliorer la fraction bio de notre alimentation qui pour l'instant est extrêmement petite. Voilà.
C'est terminé.
Ah ben voilà. Non. J'ai mal annoncé pour les pins de lac, c'est
non,
ça.
Non, je vais donner des compléments.
Voilà.
Christiane Martin.
Donc, je fais partie du groupe Europe Écologie d'Aix-les-Bains. Je vais donner un petit complément par rapport à la réunion vendredi soir à l'Épin-le-Lac. Alors, cette réunion se passera sur le quartier de la gare, au-dessus du boucher-traiteur, à 20h. Je dis cela pour ceux qui auraient des contacts sur l'avant-pays, parce qu'il s'agit de l'avant-pays savoyard. Et si vous pouvez faire passer cette info à vos contacts sur l'avant-pays. Voilà.
Et c'est Christiane qui a des billets pour samedi 27.
C'est moi qui ai des billets aussi. Je suis à votre disposition à la sortie de la salle. À vendre, voilà. La soirée du 27 février à Drumettaz-Clara. Merci.
Merci encore. Rentrez bien chez vous. Faites attention au verglas. Ça va, je vous ai pas trop bousculé.
C'est bien. Qui prend les papiers pour.
Ah oui. Oui. Je pense que ça va bien être accepté. Bon, d'accord. Bonsoir, merci. Sympa d'être venu. Ça va, ça vous a.
Très bien.
C'est bien, non ?
Très bien.
On va voir les retombées.
Et au modem, c'est un gars qui distribue les tracts du modem. C'est super, Vincent, merci.
Merci.
Qu'est-ce que tu en penses ? Je pensais qu'il fallait effectivement couper.
C'est bien, écoute.
Ou alors on faisait toute la soirée sur un sujet. Et là, je préférais comme ça. C'était pas déplacé.
Conférence.
J'ai essayé d'enregistrer le truc, j'espère que ça marchait.